Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
RMC, l'After CAN.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à tous, l'After CAN en direct d'Abidjan. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast, toi fan du football africain. On est ensemble jusqu'à 1h30 du matin. L'After, premier réseau de France le soir. L'After, premier podcast de France, également est en Côte d'Ivoire pour la CAN. Jour numéro 15 à mes côtés, comme tous les soirs, notre reporter RMC Sport, Aurélien Tiercin. Salut Aurélien.
Bonsoir à tous.
Dans un instant, Sébastien Bassong va nous rejoindre, international camerounais, dépité. Tu l'as pas croisé sur la route du stade?
Non, il y avait des bouchons, donc ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'attend encore un peu, mais il y avait de quoi.
Car son Cameroun a été très décevant, battu, éliminé par le Nigeria tout à l'heure, 2-0 ici à Abidjan. On va débriefer avec vous au 32-16 cette rencontre, bien sûr la déception camerounaise dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On sera également avec John Utaka dans un instant, qui lui en revanche est aux anges, qui voit son Nigeria qualifié pour les quarts de finale de la compétition. On va aussi lancer les avant-matchs demain, les deux huitièmes de finale, avec un Guinée équatoriale et également l'affiche de la journée demain, hein, sans faire injure à nos amis guinéens, Égypte, République démocratique du Congo. Les pharaons vont-ils enfin lancer leur Coupe d'Afrique des Nations après 3 matchs nuls dans la phase de poule? Et puis on finira, c'est une tradition désormais dans l'After CAN, par un quiz spécial Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti, l'After CAN numéro 15 jusqu'à 1h30 du matin sur RMC.
Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
RMC, l'After CAN en direct d'Abidjan.
On connaît donc l'affiche du premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera vendredi à 18h, le Nigeria face à l'Angola. On va commencer par parler du Nigeria, bien sûr. Je vais accueillir une légende nigériane, une légende du football français en Ligue 1, champion avec Montpellier en 2012. Hein, il a joué à Lens, il a joué à Rennes. John Utaka est dans l'After CAN. Salut John.
Salut.
Très heureux de t'avoir avec nous sur RMC. Toi, depuis Montpellier, hein, t'es toujours sur place, hein, dans la ville qui t'a fait chavirer.
Oui, toujours. Je suis avec U19 nationaux de Montpellier, donc ça fait de bien de rester ici dans le sud. Il fait bon.
Tu m'étonnes, évidemment. Il fait bon vivre à Montpellier. T'as bien raison, John. Bon, tout à l'heure, je rappelle, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, oui, les plus jeunes qui nous écoutent, hein, 50 sélections avec le Nigeria, une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, notamment. Bon, tout à l'heure, je t'ai appelé, avant l'émission, mon cher John. Oui. Et t'étais déjà tranquille au téléphone. Pas trop inquiet avant d'affronter le Cameroun. T'as eu raison.
Je pense que nous, on a une bonne équipe. Quand même, on a gagné 2 matchs dans nos phases de poule, un match nul, on a qualifié, on a 7 points avec Équatorial Guinée, et ça prouve que quand même qu'on a une bonne sérénité dans l'équipe, même si on ne marque pas beaucoup de buts, mais quand même on gagne des matchs, ce qui est important parce qu'il n'y a pas de match facile dans cette Coupe de Nations, on a vu beaucoup de surprises notamment. Donc, mais je sais parce que je crois à notre équipe, à notre Super Eagles, donc je savais qu'on va faire le boulot, quoi. C'est pas facile, bon, c'était pas facile, mais on a passé.
T'as pas tremblé ce soir, honnêtement, John?
Non, parce que on a débuté le match. Par exemple, on a commencé en 4-3-3. Par contre, quand on défend 5-4-1, donc on met beaucoup de densité qui fait que les Camerounais, ils ont difficile à tester, quoi. Donc c'était vraiment une tactique bien mettre en place, quoi, pour l'entraîneur.
C'est étonnant, hein. Je suis avec également Aurélien Tiercin, reporter à RMC Sport. On avait annoncé une attaque flamboyante côté Nigeria avant la compétition, avec une défense passoire, j'ai envie de dire. Oui. Finalement, c'est l'inverse qui se passe. Excellente défense qui a encaissé qu'un but dans cette CAN. Et vas-y, Joe.
Exactement. C'est tout l'inverse de ce qu'on avait imaginé. Alors, Osimhen, il pèse vraiment quand même. Chaque course, ça fait très mal aux défenseurs. Bon, à côté, Moses Simon et Lookman, même s'il met un doublé, ils étaient un petit peu plus discrets aujourd'hui. Puis on a dit, bon, Wilfried Ndidi, il est absent. Il n'y a pas de défenseur de renommée internationale. Le gardien, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Puis à l'arrivée, en fait, on a un Nigeria qui ressemble un petit peu à l'Égypte des dernières années. Ça verrouille derrière. On a l'impression que c'est impossible de les passer au milieu et en défense. Bon, après, on déroulera sur le Cameroun. Il y a aussi des explications du côté malheureux malheureusement des lignes indomptables, mais franchement le Nigeria hyper solide, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Même José Pesseiro, le sélectionneur portugais, il était un petit peu contesté avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y avait pas grand chose qui allait dans cette équipe. On s'appuyait quasiment que sur Victor Osimhen, et en fait c'est un vrai collectif. Et là, bon, et tu l'as dit tout à l'heure, il y aura l'Angola en quart de finale. Là maintenant, ça commence à peser lourd quand même.
Ça commence à devenir sérieux, hein. C'est vrai. Comment t'expliques ce rééquilibrage dont parle Aurélien, John? Parce que c'est vrai que bon, il y a pas les mêmes références derrière que devant au Nigeria.
Non, mais si on regarde bien, nos premières lignes défensives, c'est Victor Osimhen. Le nombre de travail qu'il fait défensivement, c'est hallucinant. Il défend, il attaque, il pèse défensivement, offensivement. Donc ça soulage un peu nos deuxième ligne. S'ils sont à 4 quand ils défendent, les Camerounais, ils sont à 2, à 3, parce que c'est 4-4-2, on limite le zone que je vois. Mais on est quand même, on est 4, mais on est nombreux. Donc il fait qu'on a beaucoup de densité, il fait qu'ils n'arrivent pas à passer. Donc c'est honnêtement un système, là, moi, j'aime bien, parce que ça nous fait défendre bien. Et quand on a le ballon, les ailiers, ils sont là, donc qui fait qu'on attaque aussi en 4-3-3, mais on attaque à 5 quand même. Si tu regardes, à chaque fois qu'on a le ballon, il y a un danger.
Et j'aime bien aussi Alex Iwobi, John, qui est un joueur qui était plus offensif à l'époque et qui aujourd'hui est vraiment milieu relayeur numéro 8. Et bon, alors il a raté un quasi immanquable malheureusement pour lui à la fin du match, mais Alex Iwobi, ouais, je trouve qu'il a beaucoup d'activité au milieu de terrain. Défensivement, c'est intéressant, il bouge bien les angles et puis c'est lui qui distribue le jeu un petit peu devant justement pour les ailiers. Je trouve qu'il est parfait dans ce rôle-là. Et puis après, la petite anecdote, hein, avec les chaussettes baissées, je trouve qu'il a un style assez incroyable. Mais bon, on adore ça. Non, Iwobi remis au milieu de terrain, John, franchement, je trouve que c'est hyper intéressant.
Non, c'est intéressant, c'est un petit peu ce que Michael Obi fait à Chelsea. En fait, il fait un lien entre le milieu défensif et milieu offensif aussi. Il participe de temps en temps offensivement, mais il est vraiment un peu plus bas que d'habitude. Donc, ça nous fait du bien aussi parce qu'il sait distribuer les ballons, il est en activité et c'est ce qu'il fait bien aussi à l'équipe.
Alors, selon mon tableau ce soir, mon cher John Otaka est avec nous dans l'After Can. C'est la blessure de Nwabali, le gardien nigérian, qui est sorti. On aura des nouvelles dans les prochaines heures. Hein. Il a été remplacé par Ouzo. Oui. Tu peux nous dire un mot de ce gardien remplaçant, parce que c'est peut-être une tuile également pour le Nigeria.
Moi, je pense que c'est un bon gardien. De toute façon, s'il est là et s'il est choisi, ça veut dire qu'il est bon. Et malheureusement, Mwabali s'est blessé et c'est Ouzo qui a pris la place. Maintenant, il faut qu'il confirme dans le prochain match contre Angola. Si la blessure de Mwabali, il est vraiment inquiétant.
Il a 34 sélections à Ouzo, c'était le titulaire avant, il a quand même des références en sélection, même si aujourd'hui il joue à Chypre, je crois. Bon, c'est pas le gardien du siècle, mais a priori, bon, c'est quand même des gardiens qui se valent. Donc, pour le Nigeria, ça devrait pas poser non plus un problème, surtout que, alors, j'ai même pas vu le tableau des stades parce que je reviens du stade. Mais au stade, avec les autres journalistes, on se demandait même si le Cameroun avait tiré au but. Donc, à la rigueur, on peut mettre n'importe qui, y a pas de problème. Parce que la défense laisse rien passer.
Moi, défensivement, on était solide. Honnêtement, on était solide. Moi, j'étais même un peu surpris. On était vraiment solide. Il n'y a rien qui passe. Donc, ils ont tiré une fois. Je crois que c'est le coup franc qu'ils ont tiré. C'était une fois coup franc que le gardien, il a pointé loin. Donc, à part ça, ils n'ont pas tiré au but. Pas aucune chance d'approcher. Donc, ça, c'est bien. Et offensivement, on a posé beaucoup de problèmes. Même techniquement aussi, on était meilleurs.
Donc, zéro tir cadré ce soir du Cameroun.
90 minutes, donc c'est énorme.
C'est incroyable. Tout ça en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, John, énorme. Confirmation que le Nigeria, on le savait, hein, c'est une énorme nation du continent africain. C'est déjà la 18e fois que le Nigeria se qualifie pour un quart de finale en 20 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, qui en a gagné 3. Comment tu sens à la suite du parcours? Il y a l'Angola à venir, ce sera vendredi à 18h. Vous serez, quoi qu'il arrive, favori, John. Jusqu'où t'imagines le parcours du Nigeria sur la route, hein? Il peut y avoir le Maroc, hein?
Oui.
Pour le Nigeria en demi.
Là, on a Angola. Angola a prouvé aussi qu'il ne faut pas prendre Angola au léger, parce qu'on a vu les buts qu'ils ont marqués. On a vu des actions de but. Ce n'est pas que des buts, mais des actions de but. Ça veut dire qu'offensivement, c'est une équipe qui fait mal aussi. Donc, nous, c'est à nous d'être vigilants. Mais on sait qu'il n'y a pas de match facile. Il n'y a jamais un match facile. Donc, on va prendre match par match. Et Angola, on va bien, je pense que nous, on va bien préparer. pas grand chose qui va changer. Je pense que si on garde la même dynamique qu'on a aujourd'hui, on va aller très loin dans la compétition.
Dis-moi, John, au Nigeria, on n'en veut pas à Victor Osimhen d'avoir marqué qu'un but pour l'instant dans la CAN. Hein. Il fait un boulot énorme, mais on l'attend aussi plus efficace.
Oui, il va marquer, bien sûr. Moi, j'ai eu au téléphone avec un ami, j'ai dit qu'il fait un travail énorme qui doit être, à un moment donné, être compensé, parce que c'est pas normal qu'il fait tout ce travail et ne pas marquer de but. Donc peut-être que ça, on va voir ça au prochain match. Hein. Parce qu'il fait vraiment un énorme travail. En plus, il était seul. Mais le premier but, il anticipe le contrôle de défenseur, il gagne ses duels, c'est lui qui a donné un bon ballon à Lookman pour marquer. Maintenant, il y a beaucoup de générosité dans ce qu'il fait. Et voilà, s'il est meilleur joueur africain, c'est pas pour rien. Quoi. Donc, il aide l'équipe, il fait ce qu'il fallait faire, donc c'est bien.
C'est vrai, hein, Aurélien, qu'il fait un boulot. Bon, on le connaît, hein, à Naples, hein, c'est un mec qui a une dépense d'énergie incroyable, Victor Osimhen. On le voit encore, il est au service de l'équipe.
Ouais, exactement. Ouais. Bah, alors le problème pour lui là, c'est qu'il est vraiment mal entouré entre guillemets, pas techniquement, mais comme l'équipe joue vraiment très bas, c'est ça le plus surprenant du côté Nigeria. Mais par contre, à chaque prise de balle, il est à 100%, ses sprints à haute intensité en permanence. Il s'est quand même fait un énorme duel avec Christopher Wu. Moi, je trouvais que, alors parfois l'arbitrage ce soir a pas été extraordinaire. Je trouve ce soir, je trouve qu'il y a eu beaucoup de coups de coude. On lui a barré la route de manière un peu étonnante à Osimhen. Ça a pas beaucoup sifflé sur lui ce soir. Mais bon, à l'arrivée, avec son gabarit, sa vitesse, il a quand même embêté la défense en permanence.
John, vas-y.
Non, vas-y.
John Oteka est sur RMC avec nous. Je vais accueillir Clifford, un supporter du Nigeria qui est avec nous, 32-16 sur RMC. Salut Clifford.
Salut.
Heureux de t'accueillir sur RMC. Bon alors, comment t'as vécu cette soirée? Tranquillement, j'imagine.
Ben ouais, franchement, tranquillement, rassuré. Ben ouais, comme vous l'avez dit, très peu d'occasions pour le Cameroun. Donc il n'y a même pas eu de stress pendant ce match. J'étais vraiment confiant, donc... Et après, quand je vois le travail de Osimhen devant, en plus de ça, c'est vraiment rassurant.
Comment tu te situes là, après ces quatre matchs, le Nigeria dans la Coupe d'Afrique des Nations? Tu le vois vraiment comme une équipe favorite désormais, parce qu'il y avait beaucoup de doutes avant la compétition, sur l'équilibre notamment de l'équipe.
Ouais, il y avait beaucoup de doutes, j'avais beaucoup de doutes, mais maintenant après... je pense que maintenant, je pense qu'on pourrait être parmi les favoris de cette compétition et qu'on a des défenseurs comme Calvin Bassé ou Olaina, Prostekong, c'est vraiment solide derrière et c'est surtout Calvin Bassé qui fait deux, trois gros matchs. Donc, je pense que peut-être pas la meilleure équipe, mais parmi les grosses équipes.
Ouais. Ouais, coéquipier de Iwobi à Fulham. Il y a beaucoup de joueurs, hein, de première ligue ou de championship dans l'effectif du Nigeria. John est passé en Angleterre également, John. Hein. C'était en quelle année, John?
C'est en 2008 jusqu'à 2011.
Portsmouth,
évidemment. Oui. Portsmouth. Oui. Alors John, viens nous rejoindre dans le studio RMC à Abidjan, un homme qui a fait l'essai de sa carrière en Angleterre, en première ligue, notamment à Tottenham, consultant RMC Sport. Sébastien Basson qui est avec nous. Salut Seb.
Salut à tous.
On est heureux de t'avoir. Il est un peu triste Sébastien, John. Hein.
Oui. Salut John. À Portsmouth, t'es bien tapé tes pieds, c'était bien.
Vous avez des souvenirs en commun, c'est bien.
Ah, tu sais, il était avec mon papa Harry Redknapp, il connaît hein, John.
Bon John, je te remercie, puis on te rappellera hein, pour le quart de finale, hein, si tu veux bien. Quoi. C'est un plaisir de t'avoir sur RMC. On te souhaite le meilleur avec les jeunes à Montpellier, surtout.
Et une
belle carrière d'entraîneur. Voilà, c'est John Oteka. Je remercie également Clifford. Merci Clifford d'être venu sur RMC. On se rappelle d'ici là, si le Nigeria avance dans cette Coupe d'Afrique des Nations, déjà au rendez-vous des quarts de finale. Alors maintenant, on va ouvrir un gros dossier après la pause. Cameroun, parce qu'il y a beaucoup d'appels au 32-16. Beaucoup de supporters camerounais en colère. Sébastien, tu vas nous livrer ton analyse de ce match. Hein, toi, l'international camerounais. On a Écorien Tiercé en direct d'Abidjan, bien sûr. Ensemble jusqu'à 1h30 du matin. Le 32-16 est ouvert. Vous nous appelez, supporters des Lions Indomptables, pour nous parler de votre déception, votre analyse, bien sûr, après cette élimination dès les 8e de finale sur RMC. À tout de suite. On revient dans quelques secondes.
RMC, l'After CAN.
Nicolas Jamin.
L'After Cannes, jour numéro 15 en direct d'Abidjan avec Aurélien Tiercin, reporter RMC Sport. Et donc Sébastien Basson qui nous a rejoint. Il a fait les 15 minutes à pied du stade.
22
minutes même. t'as l'application, t'avais regardé?
Ouais, je te dis 22 minutes, je regardais. Je me suis dit, putain, ça fait longtemps que je n'ai pas marqué 22 minutes sur cette chaleur.
Mais bon. Tu nous as rejoint, on est heureux de t'avoir. C'est pas la première fois que tu es avec nous sur la Cannes. On t'avait aussi accueilli, c'était un super souvenir, à Doha au Qatar pendant la Coupe du Monde.
Ouais, c'était pas mal.
Ouais. On s'était régalé. Bon, mon cher Sébastien, ton sentiment simplement ce soir, évidemment, quoi.
Bah, mon sentiment, c'est clairement, c'est de la déception. Parce que, quoi qu'on dise, peu importe si on peut philosopher ou pas, quand t'es supporter, tu veux gagner. Tu veux gagner, tu veux que ton équipe gagne. Aujourd'hui, on n'a pas gagné. À partir du moment où tu gagnes pas, tu peux que être déçu. Donc après, le pourquoi, du comment, la manière, on peut en parler. Mais le sentiment, quoi qu'on dise, on peut avoir plein de différentes analyses et on va en avoir plein, je pense. Parce qu'il y a différents ressentis, différentes émotions par rapport aux gens. Mais au final, l'émotion principale, c'est de la déception qui va tourner chez certains de la colère. Et c'est ça qui est dommageable.
On va écouter Thierry Gobertsang, hein, c'était il y a quelques minutes en conférence de presse après le match, après la défaite 2-0 du Cameroun face au Nigeria, son explication concernant la défaite.
J'ai vu, enfin j'étais en face d'une équipe nigérienne qui est très bien en place. Et voilà, après je pense que, comme je l'ai toujours dit, mes joueurs à un moment donné, on y était. Et ils ont été très fragiles à un certain temps. Et ça nous a créé ce que ça pouvait là. Est-ce que mes joueurs aujourd'hui ont la qualité, la capacité de pouvoir subir et de se mettre plus haut? Bon, moi, je pense que c'est ça qui nous a manqué aujourd'hui.
La capacité de se mettre plus haut. C'est intéressant quand même, hein. C'est assez fort comme déclaration.
Très,
quoi.
Très bonne.
Pas forcément capable de faire plus.
Non, pas. Mais et, au final, sincèrement, les gens souvent. Comment on fait la différence entre ça, un niveau des joueurs? Les gens, ils regardent les techniques. Non, c'est de l'endurance mentale, l'endurance physique. Physiquement, aujourd'hui, les Camerounais, ils sont pas prêts. Pour moi, ils étaient pas prêts parce que.
Mais pourquoi ils sont pas prêts?
Pour X ou Y raison. Après, pour il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué dans leur club, qui reviennent. Je pense pas qu'ils soient au niveau physique optimal, déjà. Et après, quand tu mets une addition de joueurs qui n'est pas, et qui revient, par exemple, le petit Georges Kevin Koudou, aujourd'hui, il était inexistant. Ça veut dire que je l'ai vu faire peut-être deux sprints. Mais sachant que avant la CAN, il revient de blessure. Donc il a fait le premier match un peu poussif, deuxième match il était un peu excité, il était bien, troisième match ça reprenait, mais là il a un coup de mou. Physiologiquement déjà, faut le prendre en compte. Et c'est un dynamiteur d'équipe. Et l'équipe, je la vois, cette équipe du Cameroun depuis le début de la CAN, être au bout de 20 minutes coupée en deux. Ça veut dire que ce soit tu restes derrière et t'arrives pas à remonter le bloc. Et, ou soit devant, t'attaques à 2-3, mais ça revient pas. Des fois, je voyais même Zambo qui voulait des chevauchés, mais pour que Zambo il revienne, rentrer dans le bloc. Et toutes les équipes, si tu regardes bien, toutes les équipes contre qui on a joué, le bloc équipe, c'est pas une question de. C'est bon, une question de qualité de joueur, mais c'est un mental. Tu sais que tu pars, il faut revenir. Oui. Parce que là, on laisse des espaces.
C'est une volonté, quoi. C'est ce que tu me dis, quoi.
Les gens, tu les mets, ils se mettent entre les lignes trop facilement. Déjà, rien que ça, ça fait que. Ça crée un problème. Et là, après, bien sûr, Rigaud, il l'a dit, la force du Cameroun de base, depuis des années et des années, que ce soit avant moi, pendant que je jouais, et même après, c'est dans la tête. Ça veut dire que quand il a parlé de force de subir, on savait subir. Ça veut dire que le Cameroun, comme beaucoup d'équipes jouent contre nous aujourd'hui, ils savent défendre, ils vont sortir une fois, deux fois. Le Cameroun, à la base, on fait ça. On défend, on a pris plaisir à défendre et à subir. On a un ou deux joueurs à un moment donné qui vont sortir des. Ça, c'est le jeu du Cameroun. Après, on peut parler de. On n'est pas bon, mais. Et c'est ça qui est perdu aujourd'hui.
Tu parles de la valeur principale, quoi, la valeur essentielle.
La valeur principale.
Oui, est-ce que Rigaud Bertsang n'est pas aussi responsable? C'est aussi à lui d'injecter cette énergie-là, cette rage de se dépasser pour l'autre.
Je pense qu'aujourd'hui, il l'avait. Il l'avait en tant que joueur pour nous l'injecter, parce que je ne vais pas te mentir. Hein. Oui. Quand il était sur le terrain, en tant que capitaine ou en tant que joueur, il savait nous l'injecter. Maintenant, dans le postulat de coach, je pense pas qu'il ait les armes aujourd'hui. Comme il l'a dit, c'est un jeune coach. Et est-ce qu'il est réellement aujourd'hui apte à transmettre ça? Moi, je pense pas. Et la preuve, ça passe pas. Après, il y a plein de choses qui viennent être dites, mais ça, c'est la base, je pense, même pour une équipe nationale. Après, tout ce qui est technique, technico-tactique, c'est un bonus. Mais si t'as pas ça, surtout quand t'as une équipe qui est moins qui est techniquement moins bonne et qui, aujourd'hui, ça fait peine à voir.
Mais tu l'as dit, il y a pas assez d'émotion dans cette équipe. Alors tu l'as dit, sur le bord du terrain, franchement, Rigobert, on le voit pas bouger énormément. Bon, alors après, ça veut rien dire, il y a des coachs qui ont leur style, mais même dans sa conférence de presse, je trouve il y a pas beaucoup d'émotion d'allant, et sur le terrain, c'est un peu ce qu'on voit.
Il a jamais été comme ça.
On a parlé,
je regarde, et ça a toujours été une force. En fait, on voit Rigobert Song comme quelqu'un de très agressif, et c'est vrai. Quand il mettait le pied, c'est un leader par l'exemple, leading by example, parce que il parlait pas. Samuel, il parlait plus que Rigo. Jérémy, il parlait plus que Rigo. Et Rigo, quand il parlait une fois, on voulait tous être derrière. C'est-à-dire que là, ce qu'il est sur le banc, c'est comme ça qu'il est. Il philosophe beaucoup, la théorie du tout ce que tu veux. Mais ça, c'est lui. Maintenant, en tant qu'entraîneur, c'est difficile. En tant que joueur, c'est possible parce que t'as d'autres personnes avec toi. T'as pas qu'un seul capitaine dans une équipe. Là, quand lui, il est sur le banc, c'est l'entraîneur principal. On va regarder que lui. Donc, ce que tu fais comme constat. Moi, je peux le comprendre, mais maintenant, faut vous dire, il s'est pas dénaturé.
Ouais, mais le problème, c'est que sur le terrain, la dernière fois, on parlait de Zambo, il n'y a pas ce grand leader qui va justement te faire tenir quand tu vas subir et te t'amener vers l'avant.
J'ai une question pour vous, et je l'en pose souvent même dans mon podcast Ballon Main Corps. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est qu'un leader? En fait, je pense que le peuple, on a une fausse conception de ce que c'est que le leadership. Le leadership, pour la majeure partie des gens, c'est celui qui va crier, qui va amener les gens. On a différents types de leadership. Le leadership, c'est de l'influence. C'est celui qui sait influencer les autres.
Oui, mais je suis d'accord.
Celui qui est silencieux, il sait influencer les autres. Ça veut dire que par son comportement. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui seront comme lui, qui vont se référer à lui. Il y a des gens qui ont besoin des leaders vocaux. Il y a des gens. Donc maintenant, est-ce que Zambo n'est pas un leader vocal?
Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je le classe ni dans l'une ni dans l'autre catégorie finalement.
Tu sais, Zambo contre la Gambie, c'est le meilleur match de Zambo que j'ai vu. Mes parents, c'est un seul match. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il était même, il a été au-dessus de ses performances. Il a surperformé, pas techniquement, mais dans son implication, dans le rôle qu'il devait avoir en tant que capitaine des Lions Indomptables, qui a un rôle à porter, qui est différent. Mais tu vois, ce genre de leadership-là, là, il manque. Mais dire qu'il n'y a pas de leader, il y en a. Mais t'as pas celui-là. En fait, l'addition de leader. Moi, j'ai besoin d'une addition de leader. Celui qui va parler à l'hôtel, qui va, tu vois, les petits nouveaux. Celui qui est quand sur le terrain, quand Vincent il est rentré, Vincent il parle pas énormément non plus. Vincent Aboubakar, il incarne quelque chose. Il rentre, il sort la poitrine.
Il y a du charisme.
Il y a du charisme. Voilà. Mais il faut des gens qui viennent compléter ça. Et là, aujourd'hui, dans notre équipe jeune, qui a un peu les jambes qui tremblent dès qu'il y a un peu de pression et qui a tout donné contre la Gambie émotionnellement, étaient vidés les petits.
Mais je te tape sur Zambo parce qu'en fait c'est lui qu'on a envie de voir briller parce qu'il a le brassard, parce que c'est le gars qui a la carrière aujourd'hui qui doit normalement emmener le Cameroun avec lui. Quand tu regardes autour, qui d'autre pourrait avoir ce statut de joueur à part?
Ah mais là on lui donne, moi pour moi on lui donne une responsabilité qu'il n'a pas à Naples. D'accord.
Oui, alors ça, je suis d'accord avec toi.
Qui n'a pas un nappe. Ça veut dire que vous voudriez que quand ils viennent ici, ils se réinventent. La personne qui va se réinventer, elle n'est plus authentique. Ça veut dire qu'elle ne va pas donner. Le résultat, il ne va pas. Zambo, là, il est dans son caractère. Je l'ai entendu, même après la conférence de presse, après le match, il était super ému. C'était pas la rage. Mmh. D'accord. Je ne vous demande pas d'être un grand rageux. Mais par contre, j'ai besoin de quelqu'un d'autre à côté qui, lui, sait faire ça. Et là, dans l'addition des talents, pour moi, le problème, c'est qu'on a tous on a trop les mêmes joueurs. Et quand t'as trop les mêmes joueurs, tu peux pas sortir de tout ça.
Tu veux dire qu'il est isolé, Zambo, en fait. Hein.
Moi, pour moi, dans son coin.
Parce qu'il a pas fait un bon match sur la CAN, pour être tout à fait honnête.
Il a pas fait une bonne CAN. Mais
Zambo, il passe à côté.
Il passe à côté, mais aujourd'hui, il passe à côté parce que je pense que la casquette qu'on veut lui donner, elle lui va pas. C'est pas la sienne. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit le joueur qui est prêt à être la figure, le premier sur le. Tu vois, en tête de ligne. Vincent, Aboubakar, oui. Qui tu veux? Il y a eu des joueurs, en fait, qui. Intrinsèquement sont prêts à prendre ça. Zambo, je pense que s'il est vice-capitaine et un peu plus dans l'ombre, mais il a moins de pression, on a moins d'attente sur lui, il va plus performer, il pourra être plus léger. Là, il tente de faire des choses. Les joueurs, ils jouent à l'envers. Je voyais une gamaleux sur le côté, t'es en train de perdre. Oui, tu fais même pas une deux passes, tu veux faire des piquets, etc. Tu joues, tu te regardes jouer. En fait, tu joues à l'envers. Et les priorités, mon problème, c'est les priorités. Quand ça passe pas au niveau technique, parce qu'il y a des jours où ça passe pas. D'accord? Faut savoir changer son mindset. Oui, c'est-à-dire jouer plus directement.
T'as raison, mais bon, tu parles de technique, il y a aussi la base, en fait. La touche de Castelletto.
qui amène le premier but. À ce niveau-là, c'est pas possible en réalité. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais quand derrière, Oumar Gonzalez, sous pression d'Osimhen, on va pas lui en vouloir, hein, c'est quand même Osimhen, hein, qui met une pression depuis le début du match énorme.
Non, ça change rien. Quand cette phrase de c'est quand même Osimhen, et alors, que ce soit Osimhen ou n'importe qui d'autre, ça change rien. Ça veut dire que si on met l'accent sur le fait que c'est Osimhen, ça veut dire que tu vas jamais jouer contre un joueur qui est un grand joueur. Tu vas faire caca sur toi et tu vas pas pouvoir. Parce que c'est Osimhen, ah, c'est lui qui m'a mis la pression. Mais il a deux bras, deux jambes comme toi. Mmh. Ça veut dire que dans la concentration, la touche de Castelletto, elle est mauvaise, mais elle n'est pas rédhibitoire, sa touche.
Oui, il peut rattraper le coup, t'as raison.
La prise de décision d'Oumar Gonzalez, c'est que le petit, à un moment donné, il se rend même pas compte de l'endroit du terrain où il est. Il n'a pas pris l'information. Et tu veux tenter quelque chose, un crochet. L'efficacité, prise de décision, priorité, joue avec ton gardien en une touche, n'essaie pas de faire joli.
Ouais, bien sûr.
Et là, j'ai un problème dans la tête.
Mais il a paniqué.
Il a paniqué.
Ça, c'est clair.
Parce que là, et là tu dois. En fait, tu peux pas paniquer. Tu veux jouer. À mon avis, il a demandé. Il voulait jouer comme tout le monde. Quand tu joues, tu sais que tu es là pour faire gagner tes défenseurs. Je préfère que tu la dégages. Mauvaise prise de décision. À partir du moment où tu prends des mauvaises décisions, les conséquences, elles sont terribles. Et Osimhen, tu sais ce que je lui ai parlé à la fin du match, à Victor Osimhen. Je lui ai dit, écoute, dis-moi la vérité. Quand t'as vu comment, les erreurs qu'ils faisaient les autres, t'as identifié là où tu devais aller. J'ai dit, je sais comment ça se passe. Il m'a dit, ouais. À partir du moment, moi, j'anticipe beaucoup. À partir du moment où j'ai vu qu'il faisait une erreur, lui, le petit là, il m'a dit, je vais jouer sur lui.
Bah oui. Il était à l'affût.
Bah, c'est ce qui est au final normal.
Ouais, normal.
Il sent les choses, il anticipe.
Il anticipe. Bon, on va pas accabler non plus Fabrice Ondoa, parce que je pense que beaucoup vont le critiquer ce soir. Il fait pas un bon match. Il avait été bon contre la Gambie. Sur le premier but qui est refusé, hein, pour hors-jeu, il est un peu coupable.
Oui.
Sur le deuxième, c'est lui qui accompagne le ballon dans les filets.
J'ai pas vu le ralenti, mais depuis le stade, ça paraît dingue qu'il sorte pas le ballon, en fait.
Enfin, ce but, rien ne va. C'est une succession de boulettes, hein. Exactement. De Castelletto à Oumar Gonzalez, jusqu'à Fabrice Ondoa. On va pas lui taper dessus, mais forcément, ça contribue à une ambiance dans l'équipe. La présence d'André Onana, je le rappelle. Alors on le voit ici à l'hôtel, hein, même hôtel que nous. Il est détendu, hein. Il a l'air tout à fait serein. Il a sûrement évolué, cet homme-là. Il a grandi, certainement. Il a accepté son rôle, alors que c'est comme le grand gardien du Milan et de United, qui aujourd'hui est le remplaçant du gardien remplaçant du 15e de National, le Nîmes Olympique.
J'ai parlé avec André. Tu sais, j'ai parlé avec André avant le
match, là.
Ouais, avant le match.
Quand il est parti au stade.
Non, pas ici, sur le terrain.
Ah.
Quand il est sorti, ils sont partis s'échauffer, je l'ai vu, on avait eu des discussions, lui et moi, par rapport à certaines sorties que j'avais fait par rapport à lui. D'accord? Et on s'est expliqué. Et dans tous les cas, ce que je lui ai dit que tu sais, j'aime beaucoup ton comportement. Parce qu'on fait des erreurs, tu vois, ce que tu es en train de montrer là, maintenant, ce que tu as fait avant, je suis pas d'accord. On en a discuté et tu sais très bien, je t'ai expliqué pourquoi, je te répéterai toujours la même chose. Maintenant, la réaction que tu as aujourd'hui, je dois te le dire, je te tape dessus quand ça va pas. Mais ce que tu montres là aujourd'hui dans ton comportement, même si c'est des fois ça peut être limite un peu too much, tu vois. Et c'est ta manière de gérer les choses. J'ai dit j'apprécie parce que là t'es intelligent. Là pour moi t'es un joueur, t'es un athlète de haut niveau. Pas seulement un grand gardien.
C'est ça.
Là t'es un athlète de haut niveau qui à un moment donné, tu sais que t'as fait quelque chose qui est pas très bien. Bah il y aura des conséquences. Comment tu le prends aujourd'hui, t'aurais pu faire envenimer la chose. Et aujourd'hui, Fabrice Ondoa, tu dois l'aider. Et il le fait parce que c'est pour la nation. Et je pense qu'aujourd'hui, Fabrice, il a fait ce qu'il pouvait. Mais encore une fois, quand tu surperformes, après tu reviens à tes limites.
Oui,
à un moment donné, tu reviens à ton niveau. Et c'est là où tu dois même pas choisir, mais on a choisi. On peut pas l'accabler, mais il faut dire les choses. Il doit faire mieux. Sur le premier.
Même les sorties aériennes, dès le début, il est fébrile sur les points.
C'est comme que 20 ans après, quoi.
Et c'est ça qui, tu vois, une chose en entraînant une autre, commence à fragiliser une équipe, tu dis inconsciemment.
Ah oui.
Tu dis, après, André, il est pas là. Putain, mais Fabrice. Il est sorti, il a boxé un peu vers le bas. Tu vois, c'est revenu. Il y a toujours 2-3 temps qui font que, jusqu'à ce qu'on arrive. Et là, il vient, il plonge. Je l'ai revu à la télé, j'étais en train de commenter. Ouais. D'accord. Et ça a tapé, il l'a pris, ça a glissé en dessous, c'est rentré. Là, inconsciemment, tu veux pas.
Ben oui.
T'es dans le trou.
Oui, puis mais je sais pas, tu le connais mieux que moi, Fabrice, mais il sait que à 30 mètres, il y a André Onana qui est là.
Là, à ce moment-là.
Ça pèse à ce moment-là.
C'est à ce
quand
moment-là.
Tu commences à perdre un peu tes moyens, quand tu rates ton début de match, tu cogites.
C'est à ce moment-là où ça commence à cogiter. Tu te dis, putain, normalement, je devais pas jouer. Qu'est-ce qu'on va dire sur moi, etc. C'est le football et le psychologique à ce moment-là, les émotions, ce qui se passe dans la tête du joueur, et tu te sens seul. En fait, c'est un moment de solitude qui est réel. Et là, j'ai eu de la peine pour lui, mais fin des fins, j'ai pas de la peine pour lui, parce que quand tu veux être un grand joueur et jouer au plus haut niveau, tu viens avec, il y a un bagage qui vient avec, il y a des attentes, et tu peux pas vous dire que tu veux jouer au plus haut niveau et quand bah tu dois performer à ce niveau là quand t'es pas là, tu dois accepter le fait qu'on dise que écoute t'as été mauvais, ouais. Et au final on t'en veut pas, c'est pas contre toi, mais là il a, en tant que dernier rempart, quand moi je te dis en tant que défenseur, si je vois que je fais une erreur, tu sais quand tu fais une erreur en tant que défenseur, ou Marc Gonzalez quand il a fait son erreur là, ce qui s'est passé dans sa tête, il est revenu, il a voulu accrocher et là il a prié pour que son gardien il sauve. Et là, à ce moment-là, ça passe vite. Tu dis, s'il te plaît, sauve-moi. Et là, tu vois en plus qu'il la touche et que ça rentre comme ça. Le petit... Moi, j'aurais voulu qu'on le sorte à la mi-temps. J'aurais voulu qu'on le sorte.
Ah ouais,
j'aurais... En fait...
Ah là, tu le flingues, là.
Non, non. Dans tous les cas, écoute, tout dépend de
je
comment...
Je sais pas, mais moi, je me suis posé la question, ouais, à la mi-temps. Est-ce qu'il faut le sortir?
Tout dépend de la communication que tu vas avoir avec lui. Le petit, il est flingué dans tous les cas. Il est sorti à la 60e minute. Vincent Aboubakar, il l'a remplacé. Le petit, dans sa tête... Comment, en fonction de comment tu lui parles,
oui, oui,
d'accord, ce que tu vas lui dire, hey, c'est pas contre toi, mais là en fait on est dans l'urgence, on n'est pas en phase de groupe, on est dans une situation d'urgence, donc on se doit de prendre des décisions dans l'urgence.
Ah oui, le laisser c'était pas un cadeau de toute façon, parce que, et même moi c'est après le premier but encaissé, donc déjà on doit, il est pas hyper clair sur le premier but encaissé qui est refusé, et tu dis si ils réagissent pas à ce moment-là les Camerounais, parce que dès le début de match ils ont quasiment pas dépassé les 30 mètres nigériens et resté acculés sur leur but, c'est ce que tu disais tout à l'heure, incapables de subir correctement. Et après le premier but, tu dis, ils réagissent pas là, ils sont morts. Le deuxième but, en plus, Lookman, il rate sa frappe. D'ailleurs, lui, il rate deux frappes, il marque deux buts.
Exactement.
Bravo à Demola Lookman. Mais bon, il y a pas grand chose à dire.
Et quand tu vois ça, tu dis, ça va être difficile là de renverser la tendance. Parce que même les Nigériens, ils sont pas sortis 5-6 fois.
Hein. Non, mais c'est clair.
Ils sont sortis peut-être 3-4 fois. Et encore, ils sont sortis à petit trop. Ils ont bien défendu. Et Osimhen, franchement, je vous en avais parlé avant, je vais pas en faire, mais. En tant que défenseur, quand tu sens,
tu sens le souffle sur ta nuque
quand il vient, il sent les choses, il attend que tu mettes le pied et il met son pied, il est toujours là. C'est un enfer pour un défenseur. Ça, franchement, je me rappelle Wayne Rooney, c'était exactement la même chose. Le mec, tu te retournes, tu le dribbles, il est encore là. Osimhen, c'était la même chose.
Et d'ailleurs, Christopher Wu, il s'en est pas si mal sorti par un moment parce que il était vraiment sur lui. Il a géré à peu près.
Pour moi, lui, aujourd'hui, le petit là, je le kiffe. Franchement, je le kiffe. Et il incarne aujourd'hui sa fébrilité qu'il a eue aujourd'hui. Ça incarne la fatigue psychologique et physique des joueurs du Cameroun.
Ben c'est bien.
Très fort.
Tu parles de Christopher Wu, on va parler de l'avenir, hein, de la sélection camerounaise, de Rigobert Song. Il a un bilan, je te le dis, il est catastrophique. Hein. Je vais donner les chiffres. C'est catastrophique. Tu le connais, hein, tu le connais mieux que moi-même.
Mes frères, ils font que de m'envoyer ces bilans. Je te dis, ça, j'en peux plus.
Là, c'est catastrophique. On l'écoutera. Il a parlé de son avenir également tout à l'heure après l'élimination du Cameroun. On est en direct de Doha, tu vois. Quand je vois Sébastien Vincent, je veux dire Doha au Qatar. Non, on est à Abidjan,
en Côte d'Ivoire.
On a chaud pareil.
C'était il y a 13 mois, précisément. Je vous rappelle qu'on est ensemble sur la chaîne YouTube de l'After également. Vous pouvez commenter, nous écouter, poser vos questions à Sébastien Basson. On a plein d'invités qui vont arriver aussi. On va lancer la journée de demain, bien sûr. Mais dans un instant, on prolonge sur le Cameroun. Et appelez-nous au 32-16, supporters camerounais, pour venir débattre avec nous après l'élimination du Cameroun et la qualification du Nigeria. RMC en direct d'Abidjan. L'After Can de retour dans quelques secondes.
RMC, l'After Can.
Nicolas Jamin.
L'After CAN en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire après l'élimination du Cameroun face au Nigeria. Appelez-nous au 32-16 supporters des Lions Indomptables pour venir en parler. On a Sébastien Basson, c'est une chance internationale camerounais bien sûr, qui connaît par cœur cette sélection. Il a joué avec, il connaît bien Rigobert Song parce qu'on va parler de Rigobert justement. Alors il prend cher évidemment, c'est normal. Hein. C'est le lot de toutes les sélections qui sortent prématurément. Là pour le coup en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tiens, on va l'écouter son avenir, Rigobert Song. C'était il y a quelques minutes après le match.
Envie de continuer. Ouais, moi, je suis un combatif. Hein, c'est-à-dire, j'aime les choses difficiles. Maintenant, après, j'ai dit, je suis sous contrat. J'aurai le temps de jamais me reposer et de faire le bilan avant de prendre les décisions.
Voilà, il a envie de continuer. Ça, c'est l'affirmation de sa déclaration. Je pense qu'il n'est pas, le seul à décider, évidemment. Il y a un homme au-dessus de lui qui s'appelle Samuel Eto'o.
Un seul.
Tout seul.
Un seul, t'es sûr?
Non, il y en a plusieurs, t'as raison. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au-dessus de Rigobert Song. Je donne son bilan quand même de Rigobert Song. C'est 23 matchs à tête de la sélection. 6 victoires, 8 nuls, 9 défaites. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle, c'est un bilan catastrophique, mon cher Aurélien.
Oui,
voilà. C'est un bilan de Raymond Domenech, quoi, en fait. Hein,
ouais, exactement.
Qui est dans l'hôtel d'ailleurs. Hein, s'il veut passer, il faut venir. Hein. Il sera reçu.
Peut-être qu'il est là pour postuler.
Bien sûr. Ah, t'as raison. Attention.
Eh oui.
Peut-être que
tu prends l'Algérie.
Tu prends Raymond Domenech.
Franchement, je préfère garder Rigo. Hein.
Tiens, je vais accueillir aussi parce qu'il était avec nous. On va prolonger Séga Diallo, ami de l'after, bien sûr. L'homme qui, eh bien, l'homme qui fait le foot en Guinée.
L'homme qui faisait le foot en Guinée.
Qui faisait le foot en Guinée. Et tu es journaliste guinéen également. Oui. On parlera bien sûr du match qui t'intéresse demain, particulièrement Guinée équatoriale. Oui. On sera là pour le commenter et pour le débriefer dans l'After Cannes. Tout va bien? T'es au stade aussi?
Oui, j'ai suivi ce magnifique match.
T'as eu de la peine pour le Cameroun?
Magnifique.
C'est la preuve
magnifique,
ces gars.
Sincèrement, je m'attendais à ce résultat. Au vu des matchs que j'ai vus du Cameroun, on était dans la même poule. Ça manque d'idées, ça manque d'ambition. Et face à une équipe du Nigeria, même si elle n'a qu'une bastion offensive assez dangereuse, c'est pas assez pour passer. Et ça s'est vu. Malgré le premier but refusé, les Nigériens ont contrôlé le match. Sans être très dangereux, mais en étant supérieur et en se montrant un peu plus ambitieux.
C'est vrai que ce match aurait pu durer des heures, hein, sans que le Cameroun marque un but. On fera une évaluation dans un instant. On parlera du Toulousain Franck Magri également. Parce que beaucoup disent, comment vous voulez passer le stade des huitièmes avec Franck Magri? Ça, c'est très sévère, hein.
Il a fait le sacrifice.
Il a été courageux, hein.
C'est l'un des moins mauvais.
Il a beaucoup couru. Voilà.
L'un des moins mauvais des Lions aujourd'hui.
Bon, Rigobert, on fait quoi alors? Faut rappeler qu'il a un peu pas de santé aussi, Rigobert Song. Il faut aussi mettre ça en considération. Lui, il a l'envie de continuer. Quelles sont les solutions éventuelles? Soit on continue avec lui, avec une nouvelle génération peut-être. Tu parlais de Christopher Roux qui peut l'incarner, hein, entre autres. Hein. Soit on choisit une nouvelle tête. Quelles seraient les solutions?
Quelles seraient les solutions? Le problème,
c'est Sébastien Basson d'ailleurs.
Hein, ah, franchement, j'ai jamais de la vie. Sincèrement, merci. Je tiens à ma santé mentale. Et donc, non, c'est pas. Il faut vraiment. En fait, déjà, les solutions, c'est qu'il faut connaître. Le Cameroun, c'est très spécial. La sélection nationale, c'est une chose. Mais le Cameroun, en lui-même, c'est très spécial. Et les gens, je pense qu'ils sous-estiment l'importance et la complexité.
Pourquoi?
Parce que
beaucoup d'influence.
En fait, le Camerounais, c'est un peuple particulier, d'accord. C'est un peuple très particulier. On est en Afrique. Les gens vont dire oui, en Afrique, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais je pense que chaque pays a sa particularité. Chez nous, c'est dur. Tu vois, de la même manière qu'on peut retourner des situations, c'est parce que dans l'ADN, on a ce qu'on appelle le hemle, la force. Rigo, il le dit. Il dit que il aime ce qui est dur. Nous, on aime se mettre dans des situations difficiles. Donc là, c'est limite il va se sentir excité par un nouveau challenge, mais dans l'inconscient collectif, on se met toujours en difficulté. Et là, on est dans une difficulté, donc on va encore parler de nous. Ça va faire du remue, ça va tourner, ça va couper des têtes, etc. Et c'est ça qui est en limite notre normalité. Maintenant, la suite, j'ai envie de te dire, je pense qu'il y aura beaucoup de changements à beaucoup d'étages.
Ouais.
À beaucoup d'étages, pas que seulement au niveau du coach, parce que c'est une débâcle collective, parce qu'au final c'est pas la débâcle de Rigo ou que des joueurs. Il y aura des joueurs qui vont partir, il y a des joueurs qui ont joué leur dernière CAN, leur dernier match. C'est toujours comme ça, il faut toujours mettre un grand coup de balai, et après aux étages supérieurs, je pense qu'il y aura du changement, parce que chez nous il y a plusieurs entités. Il y a l'entité des joueurs. Tu vois, par exemple, qu'on n'a pas les primes, les joueurs, ils ont leur mot à dire. Mmh. Mais après, il y a le gouvernement.
Et oui.
Il y a le gouvernement. Mais... Et il y a la fédération. Et il y a le peuple. D'accord? Ces quatre entités-là, il faut trouver une connivence entre les quatre. Donc, chacun devra avoir son mot à dire pour pouvoir trouver un semblant de, on va dire, même pas de réconciliation, mais d'entente, pour que, face à l'opinion publique, on puisse aller dans la même direction, parce qu'il y aura toujours les mêmes discours qui vont sortir. Oui, on va repartir, etc. Ça, c'est bon, c'est assez teasé.
Mais tu vois, Sébastien Basson qui est avec nous dans l'After Cannes sur RMC, je me tourne vers toi, Séga, il parle de spécificité. Bon, ça, c'est dans la mentalité camerounaise, hein, jamais battu, on va toujours aller chercher une qualification ou une victoire avec les tripes. On parle également des influences, des ingérences politiques aussi dans le foot africain.
Ouais.
Ça, je pense que c'est pas forcément uniquement une particularité camerounaise.
Non.
Depuis qu'on fait l'émission ici, on nous parle beaucoup de ça. Les journalistes africains nous le disent. Des membres de sélection nous le disent également en off. Il y a trop d'influence dans nos sélections.
Ouais.
C'est ce qui ne nous fait pas avancer. Est-ce que tu as le sentiment qu'on évolue, on avance? Parce que la parole, elle est forte de Sébastien. Il le dit clairement, c'est pas le premier à le dire.
Ouais.
Mais toi, c'est qui a travaillé aussi à la fédération.
Il a été politiquement correct. Il n'a pas dit la tête du ministre et du président de la Fédé sont en jeu. Rigo, il est petit dans ce qui vient de se jouer là. C'est la Coupe du Monde, c'est les mélodrames, c'est cet ensemble de sketchs permanents. c'est pas que au Cameroun, la Guinée, il y a deux jours, c'était le même cas. Un bonhomme s'assoit, il estime que voilà, les primes des gens seront payées tel jour au lieu d'être payées aujourd'hui, et donc voilà, c'est.
On pensait que c'était terminé, ça, l'histoire des primes. Tu vois, ça a frappé la sélection guinéenne, d'ailleurs, récemment.
C'est dommage, parce que c'est pas un problème, en fait, de manque. C'est juste un problème que quelqu'un ne fait pas son travail. C'est tout.
C'est l'histoire d'une incompétence.
Voilà. Non, c'est même pas. C'est du laxisme. C'est oui, ça ne me concerne pas. Donc, ils vont attendre. C'est moi qui décide.
On normalise. Donc, voilà. Le problème d'ici, c'est qu'on normalise souvent la normale. D'accord? Aujourd'hui, c'est que ce qui est folklorique de côté négatif, on en a fait une routine et une normalité. Et les gens, quand ils viennent en Afrique, quand tu viens en club ou les dirigeants, c'est ce côté moi d'abord et je vois ce qu'il y a pour les autres après. C'est qu'est-ce que je peux prendre pour moi d'abord et le reste, on voit comment. Mais avec cette mentalité-là, après, je pense que c'est beaucoup plus profond qu'une histoire de football. C'est humain. Je pense que c'est humain et c'est culturel. Maintenant, quand tu vas. Parce que ça se répète. Les problèmes que moi j'avais il y a 12 ans en sélection, c'est les mêmes aujourd'hui.
C'est les mêmes.
C'est les mêmes, mais d'une manière différente. En fait, ils sont maquillés différemment. Ouais. Aujourd'hui, dans le phrasé, voilà, les gens aujourd'hui, ils ont un phrasé différent, mais foncièrement, dans le fond, c'est la même gangrène. C'est le même problème. Donc, ça revient à quoi? À un problème humain. Tu peux mettre qui tu veux. Demain, si t'es éduque, les gens, dans une certaine mentalité, quand ils vont grandir, ils vont reproduire ce qu'on leur a.
Sébastien, en fait, beaucoup attendaient de Samuel Eto'o. On se dit pourquoi pas, il a une autorité, il a un charisme, il va réussir à s'imposer. Le bilan, il est le même que les précédents.
Ouais, mais il. En fait.
Qu'est-ce qu'il a apporté à la fédération?
Aujourd'hui, il a apporté beaucoup de rigueur.
À part une visibilité,
il a apporté énormément de rigueur.
D'accord.
En fait, le chantier. En fait, les gens, ils regardent. Ouais, c'est parce que c'est Samuel, tout doit changer. On parle d'un pays. Samuel, c'est un individu qui a une certaine autorité, c'est vrai, naturel, un désir, un professionnalisme qui n'a pas de nom. J'ai joué avec lui, contre lui, au niveau professionnalisme, c'est un top professionnel. Mais fin des fins, ça reste un être humain qui fait face à une situation où lui-même, il a ses qualités et ses défauts. D'accord? Dans un environnement qui, des fois, n'est pas forcément sain tout le temps. Donc ça veut dire que ce que tu veux, ce que tu attends de lui, on attend de lui qu'il vienne et que parce que c'est Papa Eto'o, tout change parce que il est en place. Il est pas. En fait, aujourd'hui, tu regardes les régimes. Je sais pas. Même le président, il a un gouvernement. Le président aujourd'hui de la République, c'est pas lui qui prend les décisions des lois. Donc, il a un gouvernement. Ça veut dire qu'il a d'autres êtres humains autour de lui à diriger. Les relations humaines et les tares et les traumatismes que les gens ils ont de manière interne. Là, on les voit parce que nous on parle du football et on se dit que non, faut que ça change. Mais je pense que c'est réellement plus profond. Et c'est pour ça que tu me dis, Seb, tu vas être là-bas. En fait, faut savoir où tu mets les pieds quand tu vas quelque part. Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Tu sais, tu read the room. Tu dois connaître les règles de là où tu es. Si tu sens apte à jouer avec ces règles-là, là, tu y vas. Mais si tu te sens pas apte parce que t'as pas les codes et t'as pas le répondant ou la culture, aujourd'hui, je te demanderais
bien sûr.
De laisser parce qu'aujourd'hui, tu vas perdre le temps des gens.
Un homme seul face à un système, c'est très compliqué.
Mais si le duo Eto'o-Song n'y arrive pas, là tu te dis quand même,
qui peut le faire?
Non, parce que c'est pas des politiciens. En fait, Eto'o-Song, c'est des sportifs. Samuel, il sait toucher un peu la politique.
Ouais, il est un peu plus grand que le sportif Eto'o pour le Cameroun.
Non, mais c'est ce que je veux dire.
Un petit peu plus grand.
C'est que il y a le pays du Cameroun, comme je pense chez tout le monde, il y a des intérêts économiques et politiques qui sont beaucoup. Le football, c'est l'opium du peuple. Ça veut dire que c'est ce qui est assez accessible à tout le monde. C'est-à-dire que du ministre, du président, au bouquetier, au celui qui est au quartier, c'est à tout le monde. C'est une entité de la nation. Ça veut dire, à partir de là, c'est pas parce que t'es seulement joueur de foot et grand joueur de foot que tu vas pouvoir changer tout un système. Maintenant, le duo Eto'o-Song, faut pas croire, hein. Ils sont déjà accrochés plus d'une fois. Quand j'étais en sélection, quand ils étaient en truc. En fait, il y a du chien, je t'aime moi non plus. Il y a beaucoup d'ego chez nous, comme beaucoup chez l'être humain. L'être humain, il y a énormément d'ego. Oui. Donc, comment tu vas, si t'arrives pas, ils ont une quarantaine d'années. Tu penses que c'est en un an que tu vas changer 40 ans de mauvaises habitudes?
Ouais,
c'est pas possible.
Le chemin est long, le travail est immense.
Oui, mais Sébastien, le problème dans cette histoire, c'est que tu justifies comment cette débâcle-là, cette histoire de la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a eu progression?
Oui, je comprends.
Je comprends qu'il faut être patient, mais c'est le Cameroun, c'est le continent, comme on le dit.
C'est le continent, ça restera le continent.
C'est les vannes actuellement entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun.
Mais ça, c'est rien. Ça, c'est pour amuser la galerie. Ça, en fait, la narrative, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que ça fait le buzz, ça fait kiffer les gens. Au final, quand on s'insulte, les gens s'aiment, je t'aime moi non plus. Ça, pour moi, c'est ça n'a pas de valeur. Les histoires des vannes, etc., ça n'a pas de valeur. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça ne progresse pas. Là, c'est des faits. Moi, les théories, ça ne progresse pas. Maintenant, si tu es orienté résultat et fait, comment on fait pour faire progresser? Là, je suis entièrement d'accord. Mais le reste, Twitter, les vannes et les Camerounais, les Ivoiriens, les ceci.
Non, tu as raison. Le concret, c'est les décisions, c'est les structures d'une fédération, les influences. Maintenant, effectivement, ce qui est arrivé à la Guinée aussi, je veux dire, j'écoutais tout à l'heure sur RMC des auditeurs qui disaient ah, j'aime bien la CAN, ça me fait marrer, il y a toujours l'histoire de primes qui ne sont pas versées. C'est arrivé à la Guinée. Certains, c'est terrible hein, ce que je dis là, hein, attendent le folklore de la Coupe d'Afrique des Nations. Plutôt que de regarder les matchs, ils vont dire. C'est marrant, c'est toujours pareil.
Mais c'est ça qui mais ça arrive parce qu'il y a aussi. Quelqu'un qui se défausse. Les joueurs, un an avant, ils te disent « Nous, on n'est pas d'accord avec ces primes-là, on veut qu'on discute et qu'on redéfinisse les règles. Mmh. » Ok, je prends des dispositions, c'est jamais fait. À la CAN, devant le fait accompli, vous prendrez ça, c'est ce qui est écrit. Ça marche comme ça ?
Oui.
Non, ça ne marche pas comme ça, c'est des êtres humains, ils t'ont dit. Tu es prévenu, tu sais ce qui se passe. Et ça ne marche pas comme ça, c'est pour ça... Je vous dis, c'est pas en tant que tel ça qui compte. Même pour les joueurs, le fait de revendiquer les primes, c'est pas le plus important pour eux. Mais c'est
la parole donnée.
Voilà, c'est ce sentiment-là d'être traité, de manque de considération qui pousse parfois à mettre la pression, parce que la pression sur la CAN, elle arrive au moment où tu peux la mettre, quoi. Si tu te qualifies et que l'on te dit oui dans 4 jours, on te paye, parce que voilà, on te manque de respect. Alors que tu sais que ton pays, ton État fait tout ce qui est dans ses possibilités pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions. Ça, en Guinée, moi, j'étais officiel il y a 2 mois, je sais, ça ne manque pas. Mais il y a des mecs qui attendent 2 semaines pour remettre le dossier dans le circuit en sachant qu'il va passer dans 15 bureaux et que en 2 semaines, ça ne peut pas arriver. Parce que simplement, ça les arrange. Et c'est ça le truc.
Mais parce que derrière, ils coupent un peu, c'est tout. Parce qu'en en 2 semaines, mais
tu veux dire qu'ils se serrent un peu, c'est ça que tu es en train de dire.
Bien sûr, évidemment. Sur les 2 semaines, tu as 2 semaines d'attente. Sur les 2 semaines, tu as le temps. Les gens, tu les fais attendre, ils sont un peu impatients. Ils vont être moins, comme tu es dans l'urgence.
Ils vont être moins exigeants après.
Moins exigeants après. Tu as le temps de prendre un peu là. Donc, et là, une fois que tu as récolté ta propre somme, tranquillement, là, tu peux libérer. Mais parce qu'on est dans l'urgence. Et les gens, ils pensent que sous l'urgence, les gens ils vont craquer et c'est là où le bail blesse parce que les joueurs vont passer pour des gens qui sont prêts comme t'as dit prêts de leurs sous etc le folklore les gens ils vont se moquer de nous ils vont attendre que ça limite ils veulent rigoler c'est un
ça fait plaisir c'est bien ça ne change pas c'est cool voilà c'est ça
alors qu'au final les joueurs c'est pas de leur faute et ils ont raison.
On fait une pause on revient dans un instant avec Sébastien Vassong avec Sega Diallo un journaliste guinéen Aurélien Tiersin. On va accueillir Stéphane au 32-16 qui lui veut parler de Rigo Bersong et puis après on parlera des affiches de demain bien sûr hein, Guinée équatoriale. Est-ce que la Guinée a peur de l'équipe qui en a mis 4 à la Côte d'Ivoire, le pays hôte. On va en parler avec des nouvelles de Serou Guirassy également à venir dans l'After CAN sur RMC. On revient dans quelques secondes, là tout de suite.
RMC, l'After CAN.
Nicolas Jamin.
En direct d'Abidjan, en direct de Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, le Nigeria s'est qualifié pour le quart de finale et il affrontera l'Angola. Ce sera vendredi à 18h. C'est terminé en revanche pour le Cameroun. On est avec Sébastien Bassong, international camerounais. On est également avec Sega Diallo, journaliste guinéen, Aurélien Tiersin. On est ensemble jusqu'à 1h30 du matin. Tiens, ça fait longtemps qu'il patiente. Je vais accueillir Stéphane au 32-16, supporter du Cameroun. Salut Stéphane.
Bonjour, bonjour. Vous allez bien?
Bien et toi?
Écoute,
pas top, j'imagine.
Très bien.
Ah, ça va quand même?
Tout ça va quand même. Alors, je suis supporter du Cameroun, mais de Côte d'Ivoire d'abord. Mais quand même, j'appelle surtout pour. Non, je suis déçu des éliminations camerounaises. Mais je tiens quand même à féliciter, pour moi, Rigo Bersong. Contrairement à ce que les gens disent, il a apporté quand même, il a fait vivre des émotions aux Camerounais, aux Africains. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a fait en Algérie. Cette victoire, cette qualification quand même incroyable à la dernière seconde. Il a encore réitéré en match de poule. Les gens sont assez durs, effectivement. Il n'y a peut-être pas de jeu, peut-être qu'il a un style propre à lui. Mais il a quand même, si on analyse avec un peu de recul, apporté ce fight and spirit. Je suis pas sûr que d'autres auraient fait mieux que lui. Et surtout, n'oublions pas que il a la défection, en fait, le fait qu'il n'ait pas eu Aboubakar. Tout au long qu'il soit arrivé que là qu'il revienne de blessure a été un manque quand même assez criant pour cette équipe camerounaise. Donc moi là-dessus quand je vois l'équipe de Côte d'Ivoire qui a vraiment du mal mentalement, je me dis vraiment Rigo Bersong, il a apporté cette grinta là et moi je tenais à le féliciter par rapport à ça.
Voilà. Oui, il a forcément des. Non, Sébastien, il comprend pas.
C'est un troll. Il est d'abord supporter de la Côte d'Ivoire.
Ouais, déjà,
exprès.
Ça va pas ensemble, laisse ça. Oh, non, ça peut pas aller ensemble.
Ça peut pas aller ensemble, on est d'accord, je supporte la Côte d'Ivoire et Cameroun.
Non, parce que vous raisonnez juste par rapport à l'élimination. Moi, je vois un ensemble, parce que même quand il y a eu des
c'est ça le problème. C'est l'ensemble là où moi je suis pas d'accord. C'est sur l'ensemble. Tout à l'heure,
qu'est-ce qu'on lui reproche?
Regarde le résultat. Tu peux lui redonner son bilan comptable, s'il te plaît?
Ouais, bilan comptable, c'est 23 matchs.
D'accord.
Non, en fait, tu parles d'émotion. On n'est pas. Non. C'est des faits. Ça, c'est pas des stats. Moi, je suis pas très stats. Je te dis la vérité.
23 matchs, 6 victoires, 8 nuls, 9 défaites.
En fait, on demande des résultats à un entraîneur.
Attends, Stéphane. Écoute, Sébastien.
On demande des résultats. On demande des résultats à un entraîneur. Je comprends très bien quand tu parles des émotions. Le football, c'est un jeu. Quand t'es spectateur, tu vis des émotions en fonction de qui tu es. J'ai aucun problème avec ça. Mais quand nous, d'un côté professionnel et supporter et même acteur du jeu, on marche au résultat. Donc, merci pour les émotions. Je suis d'accord, mais les émotions, ça donne pas des titres. Aujourd'hui, ça donne pas de titres et ça nous ramène rien. Toi, ça te fait kiffer, mais moi, ça me fait pas kiffer.
Attends, les résultats, soyons réalistes. Là, contre le Nigeria, tu joues contre eux, le joueur qui est ballon d'or africain. Toi, en face, t'as
mal
dit.
Mais arrêtez ça.
Mais faut être réaliste à un moment donné.
Mais ça veut dire que les joueurs.
Qui a commencé doucement et qui monte en puissance avec le meilleur ballon d'or africain en numéro 9. Et en face,
t'as dit quoi, le meilleur ballon d'or africain ou le ballon d'or africain?
Celui qui vient d'être élu ballon d'or. Donc en face, t'as qui? T'as maigri. Et en étant réaliste, si on prend ligne par ligne, mais c'est le match à la base, c'est logique.
Donc alors, je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question. La logique, il n'y a pas de logique dans le football déjà. Le football, c'est pas un sport de phase où tu regardes les stats, tu regardes les lignes. Si tu faisais ça, ça veut dire que les plus grandes équipes avec les plus grands joueurs, mon beau PSG, il aurait gagné la Ligue des Champions au moins 6 fois. D'accord. Attends.
Le Cameroun a gagné la CAN avec une grande équipe.
Voilà. En fait, tu parles. En fait, c'est là où je peux pas. En fait, je vais t'amener à réfléchir différemment, juste à voir. Je suis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, que tu as tort ou tu as raison. C'est juste que tu regardes les lignes. On fait pas dans le football aujourd'hui, si tu devais regarder joueur par joueur, c'est pas les meilleures équipes avec les meilleurs joueurs qui gagnent les compétitions. Ça, je pense qu'aujourd'hui, tu regardes le football depuis un petit moment, tu peux voir que c'est une animation. C'est une addition, c'est une équipe qui gagne. Donc quand tu nous prends de ligne par ligne, Osimhen ou pas Osimhen, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer. Ça veut dire que j'ai peur d'Osimhen. Ballon d'or africain, on fait quoi?
Oui, mais mieux vaut avoir Osimhen dans son équipe que Maigri. Donc là, on est d'accord qu'effectivement, il faut une animation. Mais quand tu as un numéro 9 et un bon gardien, en général, ça t'aide beaucoup. Et donc c'est pour ça que, quand même, en étant réaliste, le Nigeria, je pense que le Nigeria peut-être ira même au bout. Parce que ce qu'ils ont montré, solidité, efficacité, même s'il marque pas, il fait peur aux défenses adverses. Alors qu'en face, je suis désolé, il y avait pas de densité offensive. C'est juste, on espérait qu'Aboubakar, qui revienne de blessure, qui avait pas de rythme, aille faire un exploit. C'est pas possible. Donc même si on a, effectivement, quand on est derrière une équipe, on est passionné. Moi, je le suis par rapport à la Côte d'Ivoire, mais je suis réaliste aussi. Sans attaquant, aujourd'hui, dans le football moderne, ces matchs-là, ça se gagne à 1-0, 2-1, grand maximum. Sauf si t'as vraiment une grosse animation. Mais aujourd'hui,
tu vas voir.
Même le Maroc peut sortir parce qu'ils n'ont pas de numéro 9, même s'ils jouent bien au ballon. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que.
Ils ont gagné sans numéro 9.
C'est très difficile. Aujourd'hui, on est dur avec Ribéry parce qu'il a son style à lui. Effectivement, je suis d'accord que.
Il a son style, il a son bilan, Stéphane.
C'est quoi son style?
Il a son bilan également.
Stéphane, c'est quoi son style?
Son style, c'est. Attends, Stéphane, écoute-moi. Il y a une stat aussi qui est un peu sidérante. C'est pas que de sa faute, mais quand même. 23 matchs, 23 compositions différentes. Donc, comment créer un style? Comment construire sans continuité?
C'est les matchs clés. C'est comme un très bon joueur. Il peut faire tous les matchs les matchs amicaux. Il marque 15 buts. Mais les matchs clés où on attend, c'est là qu'il a répondu présent. Et je pense que tous les coachs sont pas capables de faire ça. Tous les coachs ne peuvent pas gagner à la dernière seconde ou une
c'est
fois
quoi on son style.
Mais deux fois, trois fois, on peut se dire son style.
What pas is his style?
Ça veut dire effectivement
c'est
pas
quoi son style.
Son style, c'est le fight and spirit. Bon. Avec lui, tu
ça, sais, c'est un style de jeu là, ça.
Elle est capable jusqu'à la 95e minute de gagner.
C'est le Emblé.
Et ça, pas tous les entraîneurs sont capables de le faire.
Le Emblé, c'est vrai, un style de jeu.
C'est plus important.
Stéphane.
Juste pour terminer, grâce à
Régoire, vas-y, termine.
On va se dire que le foot, effectivement, il y a le beau jeu. Moi, je suis un apôtre du beau jeu, mais il y a le mental. Et Rigobert Song, c'était le mental. Il n'y avait pas le beau jeu dans l'équipe du Cameroun. De toute façon, il n'y a jamais eu le beau jeu dans l'équipe du Cameroun, mais il y a toujours eu le mental. Ce fight and spirit que.
Rigobert, sauf que là, on l'a pas vu. On l'a pas vu le mental, mon cher Stéphane.
Oui, en face, ils étaient trop forts.
En tout cas,
ils sont forts.
J'ai compris, Stéphane. J'ai compris ton message, Stéphane. Voilà. On a compris. Là, c'est vrai qu'on se répète tous, là, depuis un quart d'heure. Merci, Stéphane, d'avoir fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux sur RMC dans l'After Can. On va prolonger, bien sûr. Hein. On va, eh bien, dire au revoir au Cameroun. On le reverra peut-être été 2025.
Le nouveau tel porte-malheur, comme la Guinée-Bissau, comme le Mozambique.
La malédiction du nouveau tel.
Voilà.
Toutes les sélections qui viennent dormir ici.
Ah ouais.
Donc, sortent de la canne.
Les Guinéens,
j'ai très peur pour ces gars, Séga Diallo et la Guinée, hein, qui s'est installée aussi au Novotel. Donc, pour l'instant, c'est 3 éliminés sur 4.
Non, Séga, n'aie pas peur, vous allez briser le sort.
On va en parler dans un instant, bien sûr. Et avec un autre consultant qui nous rejoint. Restez avec nous, c'est l'After Can sur RMC en direct d'Abidjan. N'oubliez pas de nous appeler au 3216 pour participer et qu'on est ensemble sur la chaîne YouTube de l'After. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Can.
Nicolas Jamin.
L'After Can en direct d'Abidjan, on est heureux d'être avec vous. On a lancé les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. Qualification donc du Nigeria aux dépens du Cameroun et de l'Angola. On reparlera de l'Angola dans les prochains jours, bien sûr. Excusez-nous, amis angolais, si vous nous écoutez, parce que vous avez été bons, brillants. Et peut-être que ce sera une des surprises, d'ailleurs, Aurélien, cette Coupe d'Afrique des Nations.
Là, il va falloir
14 ans après, en quart de finale.
Bosser un peu sur autre joueur que Dalla et Mabouloulou. On va devoir s'y mettre un peu parce qu'on les connaît pas tous, mais impressionnant devant, notamment.
Demain, on a une surprise déjà de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Guinée équatoriale, hein, qui en a passé 4 à la Côte d'Ivoire, qui affrontera à 18h la Guinée. J'accueille à nos côtés un joueur de Ligue 1 que vous avez connu. Notamment pas mal de clubs, hein, Mickaël Poté. Hein.
Ouais, on a bourlingué un peu.
Hein. On a bourlingué. Moi, je t'ai connu à Nice. J'étais jeune, beaucoup plus jeune que ça. Mm-hmm. Et je t'ai poussé, notamment au Stade Duré. Mickaël est avec nous, consultant RMC sur la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours en compagnie de Sébastien Bassong et de Séga Diallo, journaliste guinéen. Demain, donc, 18h, ce match. Est-ce que tu dirais, Séga, que c'est un des huitièmes les plus ouverts de la Coupe d'Afrique?
Non, logiquement, la Guinée équatoriale est favorite de cette rencontre. Ils ont fini premier devant quand même le Nigeria et la Côte d'Ivoire. C'est pas rien. Il faut respecter ce statut-là. Donc la Guinée finit troisième dans une poule certes difficile, mais voilà, la logique, il faut la respecter. Maintenant, c'est un huitième de finale. Il faut jouer ce match-là pour le gagner. Il faut venir avec ses armes, essayer sur les 90 minutes de poser des problèmes. Et c'est ce que l'équipe de Kaba doit faire et c'est ce qui est le plus important. La logique, elle est que le premier face au troisième, il y a un avantage psychologique et qui est important maintenant sur 90 minutes. Tout est possible.
C'est pas mieux. En fait, inconsciemment, parce que pour moi, c'est un nouveau tournoi qui commence. Quand tu passes les phases de poule, en plus là c'est à 24, il y a beaucoup de meilleurs troisièmes. Et là on se retrouve dans un... Ok, la Guinée troisième qui joue la Guinée équatoriale. Vous avez, j'ai vu, il y a Naby Keïta qui va jouer, qui a joué. Il y a monsieur autre numéro 9 qui revient aussi.
Guirassy qui est revenu sur la troisième journée.
Est-ce que sincèrement, c'est pas le meilleur moment de jouer cette Guinée équatoriale avec tout le respect que j'ai pour eux? Parce que je pense pas qu'ils aient la profondeur de banc que vous pouvez avoir. Et on joue tous les 3-4 jours. Donc au final, être les bons joueurs ou les grands joueurs, il y a une endurance physique et mentale. Je pense que là, votre sélection aujourd'hui...
Je pense que ces gars-là, il a parlé comme un sélectionneur, il veut mettre la pression sur la Guinée. De manière exagérée. Elle a fait la pression, elle a été énorme.
Oui. Bien sûr, c'est vrai.
Mickaël, après je te laisse répondre à mon attaque, ces gars.
Non, mais il a raison. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut noter pour aller dans la continuité de ce qu'il dit. C'est que la Guinée équatoriale, certes, est favorite aujourd'hui. D'accord ? On parle beaucoup d'eux en ce moment. Mmh. Est-ce qu'ils ont l'habitude de ça ? Est-ce qu'ils vont tenir encore ? Il y a cette pression aujourd'hui médiatique, je le vois. Parce que je pense qu'on en reparlera plus tard. J'ai un ami qui joue en Guinée équatoriale. Et il y a une pression aujourd'hui médiatique. Je ne vais pas dire pression, mais voilà, on parle beaucoup d'eux.
Et oui, c'est l'attraction maintenant.
C'est l'attraction, voilà. Donc demain, je suis curieux de voir comment ils vont réagir. Parce qu'une équipe de Guinée, voilà, avec des joueurs qui reviennent. Quoi qu'il arrive, des grands joueurs quand même qui ont l'habitude.
Bien sûr.
Et donc on va voir comment ça va se passer. Et moi je suis curieux. Donc
émotionnellement, moi, tu vois quand tu les vois toujours, ils se voient toujours à la télé, ils se voient sur les réseaux.
Parfait. En fait,
ils découvrent ça.
Ils découvrent. Ils sont c'est là ça. Avec leur célébration qui est extraordinaire.
Et tu parlais de prime. On parlait de prime tout à l'heure. Eux, la prime, ils l'ont touchée. 1 million d'euros. Il y a pas que des joueurs. Ils ont qui jouent en première ligue ou quoi. Mais ça peut aussi.
Apparemment le ministre.
Bah oui.
Exactement.
Le ministre a ajouté 50 000 euros par but marqué.
Sur la phase finale.
C'est ce qu'ils ont dit.
C'est ce qu'ils ont dit. Hein.
C'est ce qui est annoncé. Les primes en général, c'est ce qui est annoncé.
T'as raison. Mais
payer, il faut attendre que les joueurs vous le confirment.
Non, mais dans tous les cas, même pour la Guinée équatoriale, je pense que voilà, ils sont en train de vivre un truc invraisemblable. Donc quand peut-être que le ministre il dit qu'il va payer tant, crois-moi, à ce moment-là, là, il va payer. Il va payer ce qu'ils leur ont donné, ce que les joueurs. On les attendait de nulle part.
Ouais.
Ce qu'ils leur ont donné, ils peuvent leur donner même le double. Là, ils vont avoir la main légère.
Ils ont déjà reçu leur canne, en fait. C'est ça aussi.
Mais ils ont acheté leur maison déjà.
Ils ont acheté leur maison. Et puis, ils ont déjà rendu fier un peuple.
Moi, j'ai jamais été footballeur. Mais l'enthousiasme, vous en dites quoi? Quand tu as enchaîné la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée-Bissau, et que tu es presque intouchable, tu ça joues une équipe qui est venue difficilement à ce niveau-là. Psychologiquement, tu es plus armé.
Nous, on l'a vécu avec le Bénin. Je l'ai vécu en 2019 en Égypte, où on a éliminé
Maroc.
Le Maroc. Voilà, on allait jusqu'en quart. On avait le Cameroun dans notre groupe. Mais nous, on avait la particularité d'avoir fait que des matchs nuls et d'être passé, en fait. Et qu'on était passé contre le Maroc, on avait gagné au pénalty. Mais en fait, c'est quoi? C'est qu'en fait, une canne, elle se prépare pas seulement là. C'est-à-dire que eux, ils ont un esprit d'équipe depuis longtemps. Et nous, c'était ça. Il y avait pas de star. On avait Cécilien Certa à l'époque, mais nous, on avait une équipe. Et c'est ça qui fait la force d'eux. Et aujourd'hui, là, on parlait d'enthousiasme, mais c'est un kiff. C'est-à-dire que c'est pas que là, il y a tout le pays. Le retour là en Guinée équatoriale, ça va être une dinguerie.
C'est déjà quoi qu'il arrive, en fait.
Quoi qu'il arrive, c'est une dinguerie. Donc eux, c'est que du bénin pour eux.
Mais oui, c'est ça.
Mais là, ce qu'ils ont fait,
c'est une dinguerie.
Et là, cet enthousiasme, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut soit les plomber parce que c'est trop émotionnellement. Franchement, ça peut être, c'est peut-être le cas. Ou soit ça va les porter. En fait, ils vont dire que on sait pas où on va s'arrêter. Mais venez, on continue parce que on kiffe trop. Et j'en suis sûr, mais ils kiffent trop, ils traitent de l'argent.
Après c'est une équipe qui a déjà fait une demi-finale et un quart de finale. C'est pas des gars qui débarquent non plus de nulle part absolument. Et bon, Emilio Nsoué,
peut en parler, parce que c'est aussi pour ça que je voulais que Mickaël soit avec nous ce soir. Emilio Nsoué, qui est la sensation pour l'instant de la Coupe d'Afrique des Nations, meilleur buteur, 5 buts, 34 ans, que t'as connu, toi, à l'Apollon Nicosie en 2018-2019. Il a baroudé, hein, comme toi, partout. Il a joué, là, il joue actuellement en 3e division espagnole.
À l'Intercity. C'est voilà. Alicante.
Il dit qu'il n'a jamais été aussi autant en forme qu'actuellement à 34 ans. Et il incarne la Russie de la Guinée équatoriale. Il n'est pas seul dans cette équipe-là. Hein. Mais il faut parler de ce gars-là, qui a été notamment le colocataire de Griezmann à la Real Sociedad.
Oui, exactement. Il dit qu'il lui faisait son linge, à manger. C'était son petit frère, quoi, Griezmann. Il avait 19 ans à l'époque, Antoine Griezmann. Emilio Nsoué, il était un petit peu plus vieux. D'ailleurs, il est champion d'Europe des moins de 19 ans et espoir avec l'Espagne. Et après, son papa a un petit peu forcé la main pour qui rejoint la Guinée équatoriale.
Il a été accueilli comme un monument national.
Comme CR7, oui, parce que c'était le plus grand joueur à arriver en Guinée équatoriale, qui est un tout petit pays en Afrique, le seul hispanophone, donc c'est un peu particulier. D'ailleurs, il a emmené quelques Espagnols de naissance, d'ascendance équato-guinéenne derrière lui, donc ça a construit aussi cette équipe-là. Mais il a joué longtemps à Majorque, voilà, un bon joueur de D2, D1 espagnol, en Angleterre aussi, à Middlesbrough, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un mec qui a quand même une vraie carrière dans les premiers, dans les grosses 5 grands championnats européens, et puis après il a bourlingué quelques matchs de Coupe d'Europe à droite à gauche et latéral droit aussi. Il a joué un peu partout finalement, mais là il y a tout qui lui a réussi devant, quoi.
Mickaël, quel souvenir tu en gardes de ce joueur? Est-ce que t'es surpris de le voir à ce niveau-là à 34 ans dans cette Coupe d'Afrique des Nations?
Non, déjà c'est la grinta, lui, c'était ça en fait. Il avait déjà ce truc-là à l'époque, et il était latéral droit. Donc moi après j'avais joué contre lui après en sélection, je le voyais devant, je me dis mais qu'est-ce que tu fais là en fait, j'avais pas compris. mais quand je l'ai vu jouer, je me suis dit purée. Déjà c'est un joueur tellement offensif, alors il y a des latéraux qui sont offensifs, mais lui c'était abusé, c'est-à-dire ça sentait que le gars il était pas formé défenseur de base, trop offensif, une qualité de centre, une abnégation, très bon dans les coups de pied arrêtés, à la finition, il tire très bien aussi les coups de pied arrêtés, il est très polyvalent ce gars. Et de voir là maintenant, me demande est-ce que tu es surpris? Oui et non. Alors, quoi qu'il arrive, surpris.
5 buts, oui, personne ne pouvait prévoir, c'est ça.
Voilà, etc. Mais non, parce que le gars, quand tu le vois jouer, il ne prend pas le ballon tout le temps, etc. Non, il joue, il fait ce qu'il sait faire. Il remise, des fois il part, il aime bien faire les appels toujours sur le côté droit, parce que justement, il était à la terre droite. Il aime bien faire cet appel-là entre les lignes de côté droit, sur le côté droit, etc. Donc, franchement, j'ai parlé avec lui. Il est en train de kiffer de fou. voilà, à 34 ans, ils montrent. Et moi, j'aime bien, moi, les joueurs avec un peu de, ouais, de bagage qui prouvent encore. Moi, je kiffe, tu connais.
Tu as compris.
Moi, j'aime bien pour montrer parce que souvent, on pense qu'on est éteint. Alors
oui,
que non. Et ça, je kiffe. Et ça, c'est le meilleur âge.
Tu lui as dit quoi, Emilio?
Non, félicitations. Félicitations. Bah ouais, je dis kiffe, félicitations. Franchement, je dis kiffe. Il me dit, c'est une dinguerie ce qu'on est en train de faire. C'est une dinguerie, etc. Mais en même temps, on n'est pas surpris. Et c'est le discours qui me rappelait quand nous, on était en sélection du Bénin, c'était pareil. Pas surpris parce que nous, de l'intérieur, là, tu sais, tu vis la chose, tu vois, tu sais ce qui peut se passer quelque chose. Et c'est ça qui fait la force, hein. Excuse-moi, avec tout, comment dire, ils jouent tous en Europe, hein. Quand tu les vois jouer, ils jouent pas, entre guillemets, genre à l'africaine, tu vois. Tu sens qu'il y a ce côté spanish, là, que cette maîtrise, voilà, solide, joue au ballon, essaie de ressortir le ballon, etc., tu vois. Donc, non, c'est un kiff, c'est bien. Moi, je suis content pour les deux fois, franchement.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il peut aller autre part qu'en Détroit espagnol, là, quand tu fais une canne comme ça? Il a peut-être plus envie à 34 ans, je sais pas, mais.
Après, j'ai pas parlé de ça, parce que, mais en tout cas, bon, le but, c'est quoi? C'est quoi qu'il arrive? C'est que, voilà, surtout, il dit qu'il est enfant, il a jamais été aussi
enfant.
C'est
ça, mais oui, c'est ça.
C'est qu'il peut. Lui, là, tu le peux mettre en. Bien sûr qu'il peut jouer plus haut. Ça,
c'est vrai que certains disaient, j'ai vu ça, il est meilleur buteur, il a mis 5 buts, personne ne le connaît, il joue les 3 espagnols. C'est parce que la CAN, peut-être que. Ben voilà, la CAN est faible. C'est toujours le discours qu'il y a quand un inconnu.
Non, ça n'a rien à voir.
Public,
ça,
ces gars.
Contre, c'est,
mais je suis d'accord avec toi. C'est... Mais on dit, c'est qu'un mec à 34 ans de Détroit espagnol arrive à survoler cette CAN en phase de poule.
Osimhen, il a qu'un but, hein, et c'est Roux en a zéro. Ils trônent sur l'Europe actuellement, donc ça explique.
Ça, c'est des critiques habituelles sur la Coupe d'Afrique des Nations.
Mais pour le coup, moi, je pense que la CAN, ça reste la CAN. Le championnat d'Europe, ça reste le championnat d'Europe.
Oui, c'est ça. Faut pas comparer les compétitions.
Ça veut dire que moi, j'ai jamais compris qu'à travers une CAN, quand il surfe sur la vague avec son équipe et lui-même. Peut-être que ce niveau-là, il l'aura pas encore demain. Enfin, c'est vraiment la magie du moment. Si demain, un club, il vient me dire parce qu'il a fait, il a mis 7 buts à la CAN, je le prends. Je peux te garantir qu'il aura jamais le même rendement.
Ça dépend.
Il aura pas le même rendement parce que. Les conditions, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, on est en Afrique, il fait beau, c'est pour le pays.
Et c'est pour le pays, c'est le maillot national.
Quand tu joues pour le pays, tu n'as pas la même implication. Enfin, même psychologiquement, au niveau, c'est pas la même chose. Et les gens qui sont autour de toi, ce pourquoi tu joues, là, on parle d'un mois. Là, ce que tu vas faire signer un contrat, on va parler d'une saison.
Bien sûr.
Ça veut dire que les hauts et les bas, l'endurance mentale, c'est pas la même chose.
Et puis, on a vu également sur les euros des joueurs flambés qu'on connaissait pas et qui n'ont pas fait de carrière derrière. On pensait énormément.
Archavine.
C'est plus par rapport au mérite.
Leshkov en 94.
C'est plus par rapport au mérite, en fait. C'est plus par rapport, on se dit, mérite peut-être, en fait. Tu vois,
oui,
de, voilà. Après, maintenant,
sur l'ensemble de sa carrière.
Voilà, sur l'ensemble.
Après, sa carrière, elle est pas
c'est la récompense, entre guillemets, après. Voilà.
Il a un CV, comme il a fait sa carrière. Il a optimisé son talent.
Moi, je pense que son kiff, c'est aujourd'hui. Si j'étais lui, si on revient en sélection, le réel kiff, il est en Afrique. Il est quand tu reviens en sélection, l'amour que les supporters vont te donner et dans ton pays, il a changé l'image du. Enfin, ils sont en train de changer l'image du pays. Ouais. Donc au final, à chaque fois que tu vas revenir en sélection, ça va être même plus appréciable que d'aller dans ton club où on va pas réellement, en fait.
Pas la même considération,
ça va pas être jugé à la même valeur. Et ça, je pense que il faut que les joueurs qui sont bons à la CAN,
t'as raison,
tu vois, ils fassent
ces trucs là ou soit tu fais un choix de club où justement tu te sens considéré ou vraiment voilà où tu vas retrouver. Ça sera pas pareil,
mais
tu vas retrouver quand même ce truc là
parce que voilà. c'est des choses, c'est quand tu l'as touché du doigt, c'est un truc en tant que joueur, tu veux maintenir tout le temps, tu vas être un peu addict à ça, tu vas chercher cette sensation.
Emilio Nsoué, qu'on verra demain, il sera coup d'envoi de ce Guinée équatorial. Il y a deux absents, mon cher Sega, demain, côté guinéen, c'est Abdoulaye Touré et Ilaïs Moriba.
Abdoulaye s'est blessé à l'entraînement, à l'échauffement du match contre le Sénégal, et puis Moriba est malade, donc les deux ne seront pas là. Mais il y a le retour de Serrou qui a eu.
C'est quoi les nouvelles là? Parce qu'il a joué une heure.
Voilà, contre le Sénégal. Là, il était en conférence de presse ce soir. Ils se sont très bien et aptes. Nabi a eu aussi une heure face au Sénégal. C'est le leader technique de cette équipe. Il a eu beaucoup de bobos ces derniers mois. Il a tout misé sur la CAN, donc il arrive. Le fait de passer en huitième, ça permet à l'équipe de respirer un peu. Avec un joueur d'expérience comme ça, c'est vrai que depuis un an, il est beaucoup blessé, mais on sait de quoi il est capable techniquement. Voilà, la Guinée a ses armes. C'est un collectif, c'est un état d'esprit. C'est Kaba et Fous qui sont derrière cette équipe-là, qui avaient des problèmes à défendre, mais à part contre le match contre
le Sénégal, où on a fait tourner pour permettre justement de garder certains joueurs à l'abri d'un carton, d'un deuxième carton, et d'être pénalisé pour les huitièmes de finale. On s'est senti quand même pas mal. Tout est possible avec cette équipe du Sili. Il y a des garçons qui vont vite. C'est une équipe qui peut plier sans rompre. Le Cameroun l'a vu. Hein. On a joué une mi-temps à 10. Et c'est pas facile parce que le Cameroun, il y a des attaquants qui vont vite et ils avaient le ballon, il y avait la supériorité. Contre le Sénégal, tenir une heure face à cette ligne d'attaque-là, parce que le Sénégal n'a pas fait tourner contre la Guinée. Et mon inquiétude aussi pour la Guinée équatoriale, au-delà de l'enthousiasme, c'est aussi la fraîcheur physique, puisque cette équipe a aligné quand même ses meilleurs éléments sur ces trois matchs. Sur ce match-là, ils vont avoir suffisamment de jus? Parce que moi, je vis en Afrique, mais à Abidjan, la chaleur, je vis quelque chose de spécial. Je sais pas pour les sportifs comment ils gèrent ça, mais c'est compliqué. Voilà. Et la question que je me pose au-delà de ces huitièmes de finale pour la Guinée équatoriale, est-ce que cette équipe, elle est le symbole du renouveau du football de ce pays-là? Est-ce qu'il y a de l'engouement dans le pays? Ou est-ce que c'est une équipe constituée pour les compétitions internationales et qui a un déphasage avec le développement du football au niveau local? Parce qu'en Afrique, il y a cette volonté-là de faire exister les pays dans les compétitions qui est différent de ce qui se passe dans le pays.
Est-ce que c'est un coup d'éclat de compétition et pas forcément le résultat d'un développement du football dans le pays?
Donc c'est des questions qui se posent et qui
on va devoir aborder aussi. Voilà. C'est très intéressant. On va faire une pause. Ségas, je te remercie.
Merci beaucoup.
Bonne nuit à toi. On te retrouve demain pour ce Guinée équatoriale qu'on va vivre sur RMC ensemble. Merci d'être venu, Ségas Diallo.
Merci beaucoup.
Sur RMC dans l'After Can. Dans un instant, on parle de l'Égypte et de la RDC. C'est aussi l'autre affiche des huitièmes de finale. Mickaël, tu restez 5 minutes encore avec nous.
Bien sûr,
c'est sympa. Mickaël Potet avec nous, international béninois, et puis Sébastien Bassong, international camerounais. Le plateau est magnifique ce soir sur RMC dans l'After Can. A tout de suite.
RMC, l'After Can.
Nicolas Jamin.
L'After Can en direct d'Abidjan, merci d'être avec nous, 1h15 du matin, merci pour ceux qui veillent pour nous accompagner ici pour le 15e jour de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle que le Nigeria est donc qualifié pour le quart de finale et affrontera l'Angola. On connaîtra demain la deuxième affiche des quarts de finale. Le gros match est à 21h, c'est Égypte, République démocratique du Congo. J'accueille tout de suite dans l'After Can Mohamed Abdel Ghani du compte Twitter égyptien 11 Masser. Salut Mohamed.
Salut à tous. J'espère que vous allez bien.
Ben on va très très bien, nous. On est heureux d'être ici et t'accueillir. Bon, duel entre deux équipes qui n'ont pas gagné. Hein. Ça, c'est la particularité de cette opposition. Pas gagné un match de poule. 3-2 pour l'Égypte. D'ailleurs, c'est du jamais vu. Hein, j'ai dit ça, une équipe qui se qualifie en encaissant 2 buts par match. Ouais. Voilà. C'est 6 buts encaissés.
D'autant plus étonnant pour les Égyptiens qui avaient fait leur réputation et leur force sur leur défense.
Bon, peut-être qu'il y a une volonté d'être plus offensif, mon cher Mohamed, non?
Une volonté d'être plus offensif, oui. Après, c'est pas quelque chose qui est partagé par l'ensemble des Égyptiens, dans le sens où les Égyptiens trouvent quand même notre football assez aléatoire. Notre jeu n'est pas forcément. On n'a pas l'impression qu'on a travaillé ce qu'on est en train de faire. On a l'impression que Rui Vitória est en train de redécouvrir son groupe un an après l'avoir pris. On a cette impression d'une équipe désordonnée à l'image de notre pressing, on a l'impression que notre pressing, c'est des décisions individuelles de certains joueurs qui vont presser sans que le bloc décide de presser. Et ensuite, ça va créer des situations de 2v1 souvent sur nos latéraux qui prennent un peu l'eau depuis le début de la Coupe d'Afrique. Une équipe désordonnée à l'image de notre placement défensif sur les trois premiers matchs. Les mouvements offensifs sont... Enfin, offensivement, c'est mieux déjà que sous Kéroche. Oui, certes, je peux l'entendre, mais c'est quand même très individualiste. On est une équipe qui se sauve un peu grâce à certaines individualités, dont Trezeguet, Marmouche et surtout Moustapha Mohamed.
Ouais, dont Mostafa Mohamed, hein, qui a sur les épaules le poids de remplacer Mossala, qui est absent, qui espère revenir pour la finale, en cas d'éventuelle finale. Ce sera également sans Emam Achour, hein, Aurélien, hein, ouais. Et une commotion cérébrale.
Joueur important au milieu de terrain, qui commence à se faire sa place, mais bon, à côté de ça, t'as aussi du Zizo, El Neni, qui a le droit de retrouver son niveau peut-être un moment ou un autre, et puis avec Trezeguet, Marmouche, a priori, ça peut sembler suffisant, même s'ils ont, c'est surtout derrière en fait qu'il faudrait régler le problème en fait.
Moi je dis attention les RDC, hein, Sébastien.
Ah oui.
Ah moi je mettrais une pièce sur les RDC. Hein.
Ah les RDC, ils sont créés énormément d'occasions. J'ai vu leurs trois matchs et ils ont pas beaucoup marqué. À un moment donné, on sait que quand tu crées des occasions, à un moment donné tu vas régler la mire. Donc attention à les RDC parce que comme ils disent, ils ont envie de Fimbou. Ils ont envie de Fimbou, la RDC. Et ils ont des joueurs, ils ont une bonne animation offensive. Ils ont des profils différents. Et j'aime bien leur jeu. Défensivement, j'aime bien comment Chancel, il mène sa défense et il mène son bloc. Ils sont vraiment compacts et ça bouge bien au niveau du bloc. Donc franchement. Et après, par rapport à l'Egypte, moi je trouve que je les ai vus contre le Ghana, par exemple. On parle de pressing. Et il a parlé du pressing. Je trouve que leur pressing, il est pas mauvais. Je trouve qu'il est bon. Et ils sont. Tu as toujours une personne qui doit déclencher un pressing. Je sais plus comment tu t'appelles.
Mohamed.
Il y a toujours une personne qui doit déclencher le pressing pour que le bloc y suive. Le pressing n'est pas une décision collective. Il y a toujours une personne qui va déclencher, qui va diriger le ballon vers un côté. Et là, ça déclenche les autres. Ça veut dire que le pressing de l'Égypte, je l'ai vu, c'est ça qu'ils ont fait match nul contre le Ghana,
ouais.
Mais ils les ont mangés deuxième mi-temps quand Mohamed Salah il est sorti. À partir du moment où Mohamed Salah il est sorti, ils ont changé leur façon de jouer et là ils ont joué vraiment.
C'est vrai que t'as raison. Certains se sont même demandé est-ce que c'est terrible. Hein, là c'est un crime de lèse-majesté si l'absence de Salah avait pas libéré non, certains
c'est
pas joueurs.
Un, c'est pas un crime au final. C'est ça. Mais pourquoi John Dealer, moi je trouve que c'est pas un crime parce que ça force les autres.
Bah, c'est Mossala, Sébastien, ouais, quand même.
En fait, ça force.
Faut oser le dire, ça quand même.
Faut oser. En fait, si, ça dépend comment tu poses la question, mais ça force les autres joueurs à se dire que tu dois faire plus.
Oui. Exactement.
Quand t'as Mossala dans ton équipe, inconsciemment, tu sais qu'il est tellement fort que tu vas lui donner le ballon.
Tu vas t'appuyer.
En fait, même dans une situation où il est pas vraiment seul, tu vas chercher à lui donner parce que tu dis il peut faire quelque chose. Quand il est pas là, ils ont pris un but très vite. Et après ça, ils se sont dit, bah, tu sais quoi, on fait comment? C'est-à-dire que tu te responsabilises. Et là, tu joues vraiment à la hauteur de tes moyens. Ils ont joué en équipe, ils ont pressé les Ghanéens. Ça veut dire que franchement, ils les ont étouffés. Les mecs, ils avaient une énergie. Ils défendaient en avançant. C'était un rouleau compresseur. Donc, c'est pour ça que je les suis pas depuis des années à chaque match. Mais leur pressing, je trouve qu'il est pas mal.
C'est toujours structuré. Excusez-moi l'expression, c'est toujours chiant l'Egypte à jouer, quoi. C'est un bourbier permanent, quoi. Ils sont toujours là.
Je trouve qu'ils sont rentrés un peu dans la compétition. Alors, je dirais si je me trompe, avec un peu de suffisance, moi. Un peu de trop. Il y a du Mossala dans l'équipe. Un petit peu trop de, voilà, un peu d'excès de suffisance.
On est l'Egypte à la canne, quoi.
On est l'Egypte à la canne. On a l'habitude de jouer contre les équipes subsahariennes. On a la formule, etc. Non. Et vu qu'on parlait de ça avant, ça a changé. Aujourd'hui, les équipes, quand elles jouent contre l'Egypte, elles savent à quoi s'attendre, donc elles leur laissent pas le temps. Maintenant, l'Egypte, quand ils décident aussi d'accélérer, il faut savoir que voilà, ils arrivent quand même à revenir. Moi, je suis tombé sous le charme de ce Marmouche là.
Ah oui.
La vérité, j'ai kiffé. La vérité, je connaissais pas. Je suis tombé sous le charme. Vrai joueur. Lui là, le petit là, très bon joueur.
D'ailleurs, c'est peut-être lui qui a la chance de voir Salah partir parce qu'il a commencé sur le banc. Le premier match, tout le monde s'est dit, bah oui, il cartonne à Francfort.
Pas mal du tout. Tu parlais d'El Neni, par exemple, tu dis il faut qu'il retrouve son niveau. À la base, l'Égypte, c'est quand tu coupais la relation El Neni Salah, tu les avais.
Tranquille.
Donc El Neni joue pas beaucoup.
Ouais.
À partir du moment, et ça fait des années. Ouais. Donc retrouver son niveau,
fin des fins. Oui, non, en vrai, j'y crois pas. Mais voilà.
Lui, il était vraiment en relation préférentielle avec Mossala. C'est lui la rampe de lancement. Il est plus à son niveau, donc ils sont obligés malheureusement, contraint et forcé, de se réinventer. Et ça, on va dire, ça prend du temps. Mais je pense que ils ont plus cette force défensive. L'Égypte, tu les as vus la dernière CAN. Ouais. Les mecs, ils défendaient. Ils t'amenaient tous. Ils t'amenaient aussi au but. Ils t'amenaient aux prolongations. Ils savaient qu'ils avaient gagné. Ouais. C'était leur modèle.
Même avec leur gardien.
Leur gardien.
Bah, d'ailleurs, El Shenawy blessé, Gabaski qui jouait. Bon, il était excellent aussi la dernière fois. Donc, entre les deux, ça change pas grand chose. Mais
Mohamed, qui était avec nous, un mot sur l'absence de Salah. Est-ce que tu penses qu'elle a pu offrir, enfin, un vent de liberté à certains joueurs?
Je crois qu'elle a pu offrir un vent de liberté à certains joueurs, oui, dans le sens où on sent quand même que certains joueurs se libèrent et qu'ils prennent plus de responsabilités, notamment Marmouche face au Ghana, Trezeguet lors de ses entrées, Mustapha Mohamed qui reçoit beaucoup plus de ballons avec l'absence de Salah justement. Mais j'ai envie de dire que malgré ça, je trouve qu'il manquera toujours, on va dire, cette star dans cette équipe-là. Je pense pas que c'est une équipe qui est prête pour aller au bout sans Salah, dans le sens où Salah c'est quand même une dissuasion, c'est quand même la oui. star. C'est là, on a chaque nation a besoin toujours de sa star, comme a pu l'avoir l'Égypte par exemple entre 2006 et 2010, où la star, peut-être que c'était un collectif, c'était pas non plus un jeu individuel, ça reste un jeu très collectif, très structuré, mais on avait toujours une star, par exemple que quelque chose que pouvait incarner Abou Trika en 2006 ou en 2008. En 2010, bon, c'était un peu plus différent parce qu'Abou Trika n'était pas présent, mais il y avait toujours, on va dire, cette star dans un collectif qui, dans des situations difficiles, allait te libérer. Là, sans savoir, je ne sais pas qui est prêt à endosser ce rôle à l'heure actuelle, parce qu'on a beaucoup de bons joueurs, on n'a pas non plus de leader technique à proprement dit, mais voilà, c'est juste pour dire que oui, ouais, l'Égypte, les joueurs sont beaucoup plus libérés, beaucoup plus responsabilisés surtout.
Je rappelle, Mohamed, que l'Égypte, c'est la seule nation qui a réussi à enchaîner 3 CAN d'affilée, hein, 3 victoires en CAN, 2006, 2008, 2010.
Pour mon
Je le rappelle, bien sûr, c'est l'une des grandes nations du continent africain. Bon, tu mettrais une pièce sur qui, toi, mon cher Mika?
Nouvelle compétition, là, c'est difficile. Là.
Impossible.
Bah, moi, je franchement.
Pas pour la compétition en.
Non, pour le match, pour l'Égypte et RDC.
RDC. Bah, je sais pas.
Moi, je sens une petite surprise.
Je mettrais aussi une pièce sur la RDC, mais c'est plus le cœur qui parle presque, parce que pour des gars comme Mbemba, etc., Kakuta, Bakambu, mais.
Mais quand vous parlez de surprise, c'est qui l'équipe surprise là?
Franchement, non, il n'y en a pas. Pour moi, c'est équilibré comme Guinée-Équatoriale.
Voilà, je suis d'accord. Ouais.
D'ailleurs, deux pays de plus de 100 millions d'habitants, ça n'arrive pas si souvent.
C'est vrai que la RDC, on en parle souvent, on regrette qu'il n'y ait pas plus de générations de talents. C'est un pays immense en Afrique, 102 millions d'habitants. On est triste de voir qu'il y a pas, avec un tel réservoir, qu'on n'arrive pas à être plus performant CAN après CAN et plus présent aussi en Coupe du Monde. Bon, ça, c'est un autre sujet qu'on pourra développer. Les gars, c'était cool de vous avoir ce soir. Mika, Seb. Demain, c'est quoi votre programme?
Demain, je vais à San Pedro. Demain.
Ah, tu vas à San Pedro?
Bah, je commente le match Égypte RDC.
Mais parfait, t'as vu, on t'a aidé à le préparer, c'est cool.
Ouais, t'inquiète pas,
t'as pris des notes ou pas?
Moi, je suis pas à San Pedro, je suis sur le plateau aussi, un plateau télé, pareil, je fais le match. Je fais les deux matchs.
Fais les deux matchs, voilà, sur le plateau, en débrief, analyse. Ton podcast, hein, vas-y, parle de ton podcast.
Ah oui, Ballon Macor, s'il vous plaît. Allez, regardez Ballon Macor, c'est mon podcast que j'ai avec un de vos. Quelqu'un qui est dans la génération after, Ricardo Fati. Et mes deux potes de Clairefontaine, en fait, Ricardo et
Ricky, Quentin. Qui était avec nos générations voilà. After.
Bah oui, Ricardo et Quentin Westberg. En fait, c'est un podcast qu'on a monté parce qu'on est. C'est un podcast un peu en plus QI football. Tu vois, QI, le thème principal, c'est QI football. Et on fait des épisodes entre nous et avec aussi des invités où on parle vraiment des vraies choses. J'appelle ça la réunion de famille hebdomadaire. Tu vois, chaque semaine, on est là, on tourne. Là, c'est difficile de tourner quand je suis ici, mais je suis obligé. J'ai ramené mon matériel et tout.
Très bien, t'as ton petit micro, tout
non,
ça.
Non, j'ai mon Rodecaster Pro, etc. T'inquiète pas. Non, mais le podcast en lui-même, vraiment, c'est pas parce que c'est le mien, mais je pense que c'est bien pour tous ceux qui sont fans de foot et qui, à un moment donné, se posent beaucoup de questions sur comment ça se passe réellement, comment on vit les choses. Et voilà, des anecdotes. Et comme on est entre nous, tu vois, c'est plus facile. Et donc, aller regarder, aller écouter, regarder.
Bah oui, avec Quentin Westberg qui est toujours en activité, hein, qui joue à Atlanta. Hein.
Tu sais que Quentin, il entame sa 20e saison.
C'est incroyable.
On en a parlé la dernière fois, 20e saison, 20e pré-saison qu'il entame. Après, c'est un gardien, il était beaucoup sur le banc.
Oui, c'est un gardien. Il est gardien, en plus, beaucoup sur le banc.
Mais c'est mon gars qui est l'américain. Donc, 20e saison. Et moi, je suis retraité. Ricardo, il vient de prendre sa retraite aussi. Mais Quentin, il est encore dedans. Donc, ça fait qu'on a. On a une vision un peu 360 de tout ce qui se passe. Et on parle de tout. On a fait des épisodes. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Qu'est-ce que tu vois? Mais vraiment,
c'est
tu vois.
Pas mal. Non, et alors, t'as fait quoi de ton oseille?
Hein, franchement, j'ai brûlé.
C'est le sujet qu'on va évoquer. Et Mika, je rappelle que toi aussi, t'es encore un joueur.
C'est ça, là, j'ai fait une pause. Là, j'ai fait une pause, on va dire. Je ne suis pas mis d'accord avec mon club, là, la trêve hivernale. Donc, je commente les matchs. Je suis là pour la CAN. Je sais pas si je vais reprendre dans un club encore, je ne pense pas. Peut-être l'année prochaine, on verra. Mais moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, je vais jusqu'au bout. Tant que mon corps, il peut.
Mais t'as raison, fais, moi. Et tant qu'il y a l'envie aussi, surtout.
Donc, pour l'instant, je suis là.
Et tu seras avec nous demain soir, également dans l'After CAN, Mika. Merci de nous avoir suivis. Tiens, je vais quand même donner la parole à des fans de l'After qui vivent français expatriés en Côte d'Ivoire. Ils sont avec nous avec David, hein, qui est leur père, Eden et Owen. Bonsoir, Eden. Bonsoir.
Bonsoir.
Il paraît que tu voulais être le plus jeune afterien à passer à l'antenne de l'histoire. T'as quel âge?
10 ans.
T'as 10 ans? Et le plus vieux, il avait 11 ans, je crois, jusqu'à présent.
Oui.
C'est ça.
C'était Léo. Bon.
C'était Léo, c'est vrai fan de l'after. Hein. T'as des légendes là, du foot africain, hein. International béninois, international camerounais quand même, hein. Tu sais?
Oui.
Tu les connais?
Tu joues au foot? Non. Tu joues au foot?
Oui.
Tu joues quel poste?
Ailier gauche.
Ah, ailier gauche.
Parce que quand tu commences, quand à 10 ans, si tu commences derrière, t'es dans les problèmes. Faut pas commencer derrière. Ça veut dire que là, tu vas finir.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir. Là.
Exactement. Commence devant.
Bon, et tu prends du plaisir sur la Coupe d'Afrique des Nations?
Oui.
C'est quoi ton équipe favorite?
Le Sénégal.
Le Sénégal parce que?
Parce que je suis sénégalais d'origine.
La France et le Sénégal, quoi. C'est oui. Ça. Bon, mais c'est super t'avoir écouté. Merci d'être venu. Tu pourras revenir d'ici la fin de la CAN hein, avec nous dans l'After CAN. C'est terminé pour ce soir. Merci à Najib en régie à Paris. Merci à toi, Aurélien. Merci à Bruno également, à Romain, toute l'équipe de l'After CAN. Mika, on te retrouve très vite également. Sébastien aussi d'ici la fin de la CAN. Bon déplacement. Et nous, demain soir, rendez-vous hein, dès minuit en direct sur RMC. Aurélien.
1h du matin, parce qu'il y a le RMC Poker Show.
Et oui,
si
sûr,
je ne dis pas de bêtises.
Et tu seras aux manettes, mon cher Aurélien.
Absolument. Et je vais me coucher encore plus tard. Mais avec grand plaisir.
Allez, rendez-vous demain pour un prochain After CAN.
RMC, l'After CAN en direct d'Abidjan.
Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.